Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction, podcast 454.
Déjà ?
Putain.
On l'avait jamais fait ça.
Non, je crois qu'on le fait depuis environ la centième, je crois.
Je crois qu'on le fait, je sais pas, je pense que même vous le faites depuis le premier en fait. Oh, c'est déjà le premier ?
Déjà le premier,
putain, c'est fou. Vous l'avez compris avec moi aujourd'hui, il y a Julo, il y a Thomas, il y a Romain, il y a évidemment Eve, puisque nous sommes en direct, donc Eve va réagir, va vous faire réagir en direct dans l'émission. Comment ça va, Eve ?
Ça va très bien.
Il y a déjà du monde sur le chat ?
Oui, il y a du monde. Il y a forcément Nathan Gouzien. Il y a le monde incroyable de Niati. Ton pseudo est incroyable.
Très bien.
Ils sont deux.
Écoute, ils sont deux, c'est déjà pas mal. Hein.
Bonjour
fait,
à vous deux.
Ça fait déjà une conversation possible avec ces deux personnes. Cette semaine, nous allons parler un peu plus d'actualité après un courrier des lecteurs qui, je crois, vous a beaucoup plu.
C'est les retours que j'en ai eu en tout cas.
On l'a vu hein, sur le forum, etc.
Et donc nous avons décidé de faire toutes les semaines un courrier des lecteurs.
Si seulement. On serait peinard.
Sauf que cette semaine, c'est nous qui avons envoyé les questions.
Voilà, on envoie les questions aux lecteurs et on va bien se marrer.
Bon, ça serait bien pire, je pense, si on devait les questions.
Ouais, t'as raison.
Ouais, je te poserai des questions gênantes.
Ah, il y aura vraiment des trucs de bâtard, ouais.
Ah ouais.
Vas-y, bah commence déjà, t'en as une là.
Tu te rappelles cette nuit à l'hôtel quand on était à Cologne ?
Je vais te demander la permission avant.
Ok, vas-y,
je demande. Pas te foutre là. Surtout que là, en plus, on est en direct et tout.
Ok. Bah,
je sais que ta femme regarde et tout, donc je...
Oh oui, t'as raison. Alors ça, à fond. Cette semaine, les thèmes que nous allons développer seront en premier lieu Spider-Man. Comme vous le voyez sur la table, si vous êtes premium, nous avons le jeu. Donc nous pouvons en parler officiellement.
On y a joué en long, en travers. Étonnant quand même.
On l'a retourné.
On l'a fini déjà.
C'est dingue. Hein. Donc Spider-Man, évidemment, puisque les premières informations depuis l'E3 presque ont enfin filtré grâce à Game Informer qui fait un mois spécial sur Spider-Man qui balance toutes les infos possibles, les interviews, la date de sortie aussi, on y reviendra tout à l'heure. La deuxième partie sera plutôt consacrée au test de la semaine. Alors il y a eu du Okuto ga Gotoku, du Penny Punching Princess, du Détective Pikachu ou du Minit encore, on en parle évidemment tout à l'heure, et on finira par les restes de l'actu sur lesquels on se penchera, et bien évidemment sur Spyro, Final Fantasy XV et le point Battle Royale, parce que ça commence à devenir indispensable de parler des Battle Royale.
Il y en a eu deux à WrestleMania hier.
Ah bon ?
Des Battle Royale. Bah, ouais. Une pour les hommes, une pour les femmes.
Ah bon ? Ils font aussi un Battle Royale pour les femmes.
Ouais, c'est nouveau.
D'accord. Et qui a gagné dans les deux cas ?
En fait, on s'en fout. Vas-y.
Non, moi je m'en fous pas, ça m'intéresse. Attends. Oh.
Celle des hommes, c'est Matt Hardy.
Ouais.
Et celle des femmes, c'est
Matarda.
Naomi.
voilà, je suis trop vieux. Moi, tu sais, je regarde en
93.
Très bien. Et ben écoute, et Daniel Bryan n'a rien fait.
J'ai pas encore regardé le WrestleMania. Ça, c'était le pré-show
mais
gratuit.
Qui
en fait.
Sont tous okay. ces gens.
D'accord. Bon.
Il est perdu contre Pepito.
Ah, t'es d'un niveau toi ce soir.
C'est clair. Avant de passer au win or fail, comme chaque semaine,
que Julo créerait.
Comme chaque semaine.
Ah bah, non.
Eh bien, nous allons, mon cher Julo, vous parler d'une chose qui est apparue sur Gameblog et que nous sommes très contents de vous avoir proposé. Il s'agit de.
Bah, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Vers le futur, VR le futur, qui est animée par, figurez-vous, quelqu'un de la communauté, VR Singe Rhétorique, pardon. Un très joli jeu de mots dans le pseudo se cache. Si vous ne l'avez pas trouvé, faites vos recherches. C'est très compliqué à trouver. Et donc, il était, ma foi, fort talentueux. On l'avait croisé à la Paris Games Week. On avait discuté rapidement, puis on est resté en contact. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une émission sur la VR.
Et depuis, vous êtes marié. Voilà, c'était la belle histoire.
Voilà. Et donc, on s'est tourné vers lui, qui est, ma foi, fort talentueux. Et... on a créé donc ce rendez-vous hebdomadaire, hein, vous l'aurez toutes les fins de semaine, sur toute l'actualité VR, balayée comme ça, entre news, sorties, focus, dossiers, et puis toujours avec un petit essai à la fin. On a commencé évidemment avec Wipeout, qui est la grosse sensation du moment en réalité virtuelle. Et comme vous pouvez le voir à l'image, si vous avez l'image, eh bien, c'est une émission assez bien foutue. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, elle est toujours mise en avant sur la home de Gameblog. Franchement, ça vaut le détour. VR Singe était quelqu'un de très spécialisé sur le PSVR. On a profité de cette occasion pour l'équiper d'un Vive, le Vive qu'on voit actuellement à l'image. D'ailleurs, enfin, c'est pas celui-ci, parce que celui-là, c'est le pro. Hein. Alors, on l'a équipé avec un Vive qui va lui permettre de couvrir l'actualité de manière plus globale. Non, pas un DK. Hein, on a un DK2 ici. Hein, c'est Oculus, ça. C'est pas Vive. En
je sais.
Et du coup, il va pouvoir faire des essais également là-dessus, se perfectionner, etc. Donc, ça vous a beaucoup plu, a priori. Donc, on est très contents. n'y a plus qu'à l'améliorer semaine après semaine. Donc on a regardé tous vos commentaires et on continuera à les regarder, à les lire même et à en tenir compte hein, pour les futurs épisodes. Vous allez retrouver donc dès la fin de cette semaine l'épisode numéro 2. Et si vous n'avez pas vu le 1, franchement, allez-y, ça vaut le coup rien que pour découvrir un jeu qui s'appelle Beat Saber. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission.
Si, j'ai vraiment hâte
de jouer. Qui a l'air absolument génial et dont on aura probablement un essai dès qu'il sera disponible. Voilà, Beat Saber.
Ouais,
ça a l'air extraordinaire.
Ça reste un jeu de rythme.
Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire ?
Ça reste un jeu de rythme où tu dois faire avec les couleurs et c'est super dur pour moi.
Ça va vite.
Ah non, mais pour moi, c'est pas
moi. J'ai trop hâte.
Dis-toi que ça pourrait être pire. Si t'étais daltonien, là, ça serait vraiment compliqué.
Donc, on souhaite la bienvenue à VR Singe parmi nous, à la rédaction, même s'il est un petit peu loin physiquement de la rédaction.
Oui, mais il est près de nos cœurs.
Exactement. Et puis maintenant, il est près de vous, donc avec cette émission hebdomadaire. Bien sûr, ça ne remet pas en question tous ces petits contenus qu'il fait pour son blog, pour sa chaîne YouTube, etc. Mais ça, voilà, c'est le.
Vous trouvez pas qu'il ressemble à Antoine un peu ?
Exactement.
La mâchoire ? Ça se trouve, c'est Antoine, il ne l'a jamais dit. Hein.
En même temps, t'as les deux tiers de son visage qui sont cachés, donc il peut ressembler à beaucoup de monde.
Ah oui, alors comme vous avez pu le voir, il y a eu une petite critique là-dessus. Alors, il souhaite pas montrer son visage. C'était une des.
C'est une critique de quoi ? Les Daft Punk qui montrent pas leur visage. Voilà. Batman, vous l'avez. Non, il montre pas son visage non plus. Voilà. Et c'est un héros.
Et bah, VR Singe, pareil, il montre pas son visage. Donc, il aura pas toujours un PSVR sur la tête.
Ça, dans la culture populaire. Les Daft Punk, Batman et VR Singe.
Bah oui. Ou alors, comment il s'appelle ? Ah, ça y est, j'ai oublié son nom de catcher.
Junior. Rey Mysterio.
Rey Mysterio Junior, voilà, évidemment. Bon,
voilà, donc allez-y, allez voir et donnez votre avis
à Antoine.
Absolument,
à Antoine. Antoine. Non, ce sera pas. Bah, non, c'est quoi ? Il s'appelle Julien.
Ah, yep. Scoop. Bah, décidément.
Bah, il s'avère que voilà.
Il y a beaucoup de Julien.
C'est comme ça.
Ce sera pas la seule nouvelle tête, hein. Je crois qu'il va y en avoir encore une autre dans pas longtemps aussi.
Et alors ?
Et alors ? On en parlera à ce moment-là, c'est ça ?
Bah, peut-être, ouais.
Ok, d'accord. Allez ! On va passer au win de la semaine. Et le win de la semaine, c'est...
C'est moi.
C'est Romain.
Ah non, pardon, je pensais que tu parlais d'autre chose. Tu parlais d'Eva ?
Bah oui, absolument.
Ah, d'accord. Oui, alors sauf que
vous... Oui, je l'ai pas mis dans mes notes, ok, j'avoue, je l'ai pas mis dans mes notes.
Ah bah oui.
Ok.
Non, effectivement, Alix se démenait un peu tout seul du côté de l'e-sport. Et donc, nous allons recruter une jeune femme que vous avez découvert sur Gameblog, peut-être, dans un récent podcast.
Absolument. Sur la place des femmes dans le jeu vidéo.
Sur la place des femmes dans le jeu vidéo, voilà. Une ancienne joueuse semi-professionnelle.
Absolument.
Qui se reconvertit voilà, dans le journalisme lié à l'e-sport, etc. Et qui donc... va produire pour nous des contenus. Alors ça va commencer avec des news, etc. Puis il y aura probablement d'autres choses à suivre. Donc bienvenue à Eva également, qui a fait sa première news aujourd'hui.
Ah bon ?
Et elle n'est pas encore publiée.
Ah, c'était pour ça.
Donc ça va venir.
D'accord. Voilà. Bon bah très bien. Et bah maintenant on passe au win. Donc comme prévu, Romain, le win de la semaine, donc c'est toi. Et en fait c'est pas toi.
Dommage.
Bah oui, désolé.
GTA
5. Ah, GTA 5. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Qui n'en finit plus de faire parler de lui. Et là c'est quand même assez... incroyable, parce qu'un analyste du nom de Duke Rutz, c'est déjà arrivé qu'on parle de lui sur Gameblog, là, a estimé que depuis sa sortie, GTA V aurait généré 6 milliards de dollars, ce qui est déjà en soi absolument énorme, mais qui en plus en ferait le produit de divertissement ayant rapporté le plus d'argent de tous les temps. C'est-à-dire que plus que n'importe quel film, plus que n'importe quel livre, plus que n'importe quel album musical, ce qui est colossal, même en ayant converti les sommes d'époque avec l'inflation.
Genre, il ferait mieux que Thriller aussi.
Mieux que
oui,
Star
ça,
Wars.
C'est mieux que Michael Jackson, mieux que les Beatles.
Oui, mais alors là encore,
tu t'es pas foutu de notre gueule avec ton win aujourd'hui.
Là, on
je pense qu'on pourra jamais plus faire mieux que ce win. C'est pas
possible. Bah
c'est pas plus win que ce win là, quoi.
Là, on parle d'un produit seul. Je parle pas de Michael Jackson.
Ouais, mais un produit seul qui est sorti sur PS3, Xbox 360, PS4,
ouais,
Xbox
les albums,
One,
ça se réédite
PC.
Aussi en vinyle, en cassette, en CD.
Il parle, par exemple, de Star Wars. Mm-hmm. Quand on parle de Star Wars, on parle de la guerre des étoiles. Tu vois, juste un film qui, avec la conversion liée à l'inflation, etc.
Et sinon, on prendrait tous les GTA. Ça
aurait rapporté 3 milliards de dollars.
Ouais. Et Avengers, je me rappelle, c'était 2 milliards. Par
là, on est quand même loin avec les comment dire, la VOD, les VHS, les Laserdisc, les Blu-ray, tout ça. Et les tickets de cinéma, évidemment. Là, on en est à 3 milliards. Sur GTA 5, on en est à 6, ce qui est quand même un écart considérable. Et c'est grâce en partie aux ventes perpétuelles du jeu qui squattent les charts depuis sa sortie quasiment de manière ininterrompue.
Sans parler des microtransactions à l'intérieur de GTA Online.
Et GTA Online qui reste un moteur vraiment pour Take-Two Interactive. D'ailleurs, je crois que leur dernier trimestre, le gros de leur rentrée d'argent et de leurs bénéfices, c'était grâce grâce à c'était grâce à GTA Online seul. Donc c'est un, vraiment un phénomène. Là on s'approche tout doucement, on va les dépasser incessamment sous peu des 100 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait un des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire, parce qu'après t'as du Minecraft qui est sorti sur d'innombrables plateformes,
Tetris aussi.
Mais Tetris ça compte aussi les différentes versions mobiles, les trucs comme ça. Donc finalement GTA 5 c'est presque l'exemple le plus classique à atteindre des chiffres tels que cela. Donc
c'est démentiel,
c'est phénoménal. Et je me demande, est-ce qu'un jeu de ce type arrivera à le dépasser? Est-ce que GTA 6 arrivera à le dépasser?
Je sais pas.
C'est encore, c'est fait pour être battu.
Ouais
mais là ça va
c'est
être,
beau.
Ça mais ça donne quand même. Enfin, moi je sais pas. Moi je suis vieux, je dis bah j'arrête, c'est bon. Hop, on ferme la boutique, on prend la
thune. Tu vois le planning des sorties de Rockstar, hein, depuis que GTA V est sorti, les mecs ont quand même vachement espacé les sorties de leur jeu.
Et s'ils ont pris leur temps à ce point-là avec Red Dead, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont le luxe de pouvoir le faire.
Ils peuvent toujours le faire d'ailleurs.
Ils peuvent toujours le faire, il n'y a pas de pression.
Il
y a une pression gigantesque.
Tu dois faire rien du tout. Les mecs, ils arrivent au bureau, ils font « Eh, pour Red Dead, t'es prêt ?» Non, j'ai pas le temps là. Non, franchement,
attendez, gars, il y a Joe, il est pas prêt. Ah sais... bah alors on repousse.
Mais vieux, attends, GTA, ça se trouve à un moment ça va se casser la gueule. T'es un marrant, toi.
Non, mais puis tu voilà, sais, ça se passe comme on ça. Rigole, mais chez Rockstar France, parce que Rockstar Games a des bureaux français. Oui. Et bien c'est presque une blague, mais les employés français de Rockstar, et bah ils sont en stand-by les trois quarts du temps. Par contre, ils doivent être réactif, genre s'il se passe un truc en plein milieu de la nuit, ils doivent être en mesure de réagir.
C'était le cas à l'époque de la sortie de GTA V. On les salue d'ailleurs,
mais le reste du temps, c'est d'un calme, c'est d'un calme plat. Même si avec GTA Online, il y a quand même du contenu qui a été diffusé, donc ça faisait des communiqués de presse, etc. Mais dans l'ensemble, on va dire que les trois quarts du temps chez Rockstar France, ils sont relativement tranquilles. Ouais. Mais par contre, quand ça part, là, ça part plus que dans n'importe quel autre bureau.
Ça peut être très violent si jamais ils sont.
Il y a des problèmes, un
trailer qui passe un petit peu avant l'heure ou des trucs comme ça. Eve, est-ce que tu as des choses qui sont exprimées sur le chat de la Gameblog TV? Parce que là, t'es en train de nous faire.
Qui doivent être vues, connues.
Tu nous fais la tête de Ben Affleck en interview là, donc on se pose des questions.
Non, mais là, tout à l'heure aussi, les gens, ils veulent juste Spider-Man, c'est tout.
Quoi?
C'est quand que vous parlez de Spider-Man, quelqu'un encore avant qui disait c'est quand que vous parlez de Spider-Man?
Oui, alors faut arrêter. On l'a pas le jeu, hein. C'était une vanne. C'était une vanne, hein.
Team premier degré de sortie,
et là tout le monde s'en va.
Voilà.
Ouais,
c'est ça.
Non, c'est juste que. On a un peu grugé, mais bon. Tout ça, c'est pour dire qu'on va parler de Spider-Man, mais on l'a pas. Oh, du calme.
Il y a un fail d'abord.
Oui, il y a un fail absolument.
Un triste
fail. Et le
fail,
il est très triste.
Bah oui, alors on tire un dernier grand coup de chapeau à nos camarades de No Life, hein, puisque la fin de la chaîne, hein, c'est déroulé hier. On est lundi aujourd'hui pour l'enregistrement live. Dimanche 8 avril. Je sais pas vous, moi je suis resté devant, toi aussi Thomas.
Oui, jusqu'à minuit 40, jusqu'au générique de fin.
Exactement, je me suis couché à 1h, j'ai fait un petit tweet en disant que j'étais triste et c'était vraiment. Ça venait du fond du cœur, c'est-à-dire que j'ai regardé. Ce qui est génial, c'est qu'ils l'ont fait à la No Life avec beaucoup d'humour.
Et avec des foirages techniques.
Avec des foirages techniques.
C'était drôle.
Alors,
jusqu'au
tu sais quoi, mais je crois que c'était un foirage technique blague. Le truc juste après le miaou.
Ah, je
le clip de miaou.
Je sais.
Il y a eu un écran noir total.
Oui, parce que moi je l'ai regardé sur Twitch et t'avais Sébastien Ruchet qui était connecté justement avec le compte de No Life.
Ah, c'est
un moment...
sur Twitch que t'étais toi.
Ouais, ouais, parce que justement t'avais tous les commentaires des gens. Ouais. Et à un moment donné, Ruchet disait non, c'est bon, ça arrive, on va relancer le truc. Donc je pense que non.
C'est pas fait exprès.
Il y avait Cyril Lambin qui avait l'air de dire aussi qu'effectivement ils avaient
parce
pas
que sur Twitter,
eu
tout, me disait,
tout le
putain,
temps
c'est...
nécessaire pour préparer la soirée en fait. Ouais. Donc,
Non, mais on les a tous vus. Voilà. Et...
Enfin, c'est d'autant plus triste que c'est quand même une chaîne qui a accompagné la vie de Gameblog.
Exactement,
aussi,
mais c'est vraiment triste parce qu'effectivement. De notre côté, nous, à Gameblog, on a lancé donc en février 2007 le site et No Life s'est lancé quelques mois plus tard, donc en juin. Ils auraient dû se lancer plus tôt, d'après ce que j'ai compris
en
hier.
Avril, ouais.
Mais ils se sont lancés en juin et je me souviens qu'on a fait, si je me souviens bien, un échange de bannières même au départ. Ça a commencé comme ça. Et puis ils ont été, ils ont reçu l'aide, ils les ont sauvés, hein, véritablement, d'Ankama. Et quelques mois plus tard, Ankama a sauvé Gameblog également d'une fin certaine hein, pour Gameblog. Gameblog a déjà failli mourir plusieurs fois, un peu comme No Life depuis toutes ces années. Et quand Ankama a investi chez nous, on s'est retrouvé du coup dans les mêmes locaux que No Life. Avec qui on a partagé ces locaux-là pendant 2 ans, je crois.
Rue du Château d'Eau, c'est ça ?
Rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement, chez Ankama Paris, qui ouvrait du coup ses bureaux avec du Gameblog et du No Life dedans. Donc voilà, on s'est accoquiné avec eux de manière tout à fait normale. Et puis bon, on avait tous suivi le lancement de No Life à l'époque, surtout nous, pour nous qui connaissions très bien Greg. C'était la bande de Greg, comment on appelle ça ? De France 5. Enfin voilà, il y avait tout cet univers-là. Puis on s'est retrouvé avec eux dans les mêmes locaux. Et donc on a vécu, voilà, moi je me souviens, très souvent parler avec Seb, avec Alex, etc., des difficultés qu'ils avaient. Et là où on leur tire vraiment un grand coup de chapeau, c'est qu'ils ont quand même fait donc 10 ans. Ils allaient fêter leur 11 ans.
Il était prévu qu'ils fassent les 11 ans cette année, quelques mois.
Et ils ont fait 10 ans sans bouger d'un iota de la ligne qui s'était imposée, quand même une ligne ovni quoi. C'est un ovni No Life, ils sont presque sortis trop tôt quoi. Enfin je veux dire ils disaient d'ailleurs qu'ils sont lancés à une époque en 4 tiers
Et c'était les premiers à faire du let's play avec chez Marcus, plein de trucs voilà, qui existent aujourd'hui mais qui n'existaient pas à l'époque.
Et ils ont fait
des clips de J-pop, sortis de nulle part.
Et puis ils faisaient ce qu'ils voulaient quoi. Et tous les gens qui ont témoigné, ils disaient voilà, moi j'ai fait une émission quoi, parce que j'ai fait celle que je voulais quoi. Et puis c'était oui, vas-y, fais-le, ça va être bien, fais-le. Et je le fais comme ci, comme ça, ok, vas-y, fais-le comme ci, comme ça. Il y avait une liberté
radio libre des années 80, mais en version télévisée.
C'est-à-dire que même nous, à l'époque, quand on partageait les locaux avec eux, on se disait putain, ils filent droit dans leur bottes, sur tout, absolument tout. Au moment où nous, on se disait putain, il faut qu'on essaie peut-être de s'ouvrir sur tel truc, etc. Enfin, on était moins radicaux, mais peut-être même dans nos personnalités, peut-être qu'on est un peu moins sur, un peu plus, ouvert, un peu plus grand public et tout. Mais on voyait ça d'un œil très respectueux, quoi. Et voilà, on a un grand respect tous pour No Life, je pense, pour cette raison-là.
Ah bah absolument, oui.
Et voilà, ils sont morts debout, quoi.
Contrairement à Renaud, qui lui est toujours vivant.
Mais tu sais, c'est presque un... Parce que c'est une chaîne qui a enchaîné les galères pendant toute son existence.
Depuis le début, ils sont à l'article de la mort depuis le début, quelque part.
Et pour la direction, ça a dû être un travail, mais... colossal, parce qu'en plus c'est une petite équipe et à certains moments ils ont dû se séparer de certaines personnes, ce qui a dû être
toute la crève-cœur jeu vidéo il y a deux ans.
Ça a été un crève-cœur.
Un crève-cœur quand on sait leur façon de travailler et presque maintenant.
Ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient et là c'était pas ce qu'ils voulaient, hein, se séparer de la partie jeu vidéo.
Une chape de plomb qui se lève de leurs épaules et peut-être que il était temps, même pour leur santé psychologique et physique, c'était peut-être le temps vraiment de
je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi qui as regardé la fin, mais dans tous les discours qui y avait, on ressentait à la fois de la tristesse, enfin je veux dire, moi ça m'a rendu très triste, et en même temps il y avait une forme de soulagement qui disait voilà, cette fois on se battra pas, c'est terminé les gars. Et en même temps on dit voilà, on est fiers, et regardez,
voilà. Je pense que t'es content aussi à un moment donné de respirer.
Ils regardaient en arrière et ils disaient voilà, au moins on l'a fait quoi.
Et t'as pas de honte à avoir, ouais, c'est ça.
Et t'as aucune honte à avoir, t'as que de la fierté à avoir.
C'était le discours de Sébastien Ruchet justement dans son discours, dans son dernier discours, il disait un petit peu soyez contents, soyez heureux qu'on ait pu faire ça pendant aussi longtemps.
Parce que c'est presque un miracle que ça existe.
Qui tiendrait 11 ans dans des conditions pareilles.
Je crois qu'il disait qu'au début avec Alex Pilote, il s'imaginait tenir à peu près 6 mois en fait. Lancer la chaîne, faire 6 mois et puis voilà. Ça allait sans doute s'arrêter. Les mecs font plus d'une décennie, c'est quand même admirable, surtout avec cette programmation.
Et puis pour les avoir vus travailler, hein, ils travaillaient comme des chiens jour et nuit tout le temps, quoi. C'était impressionnant. C'était que
les gens produisaient tout leur contenu. Je veux dire, toutes les émissions, quasiment, elles étaient produites chez eux, et ça a toujours été une toute petite équipe. Donc imagine la masse de boulot que ça réclame.
Donc
quoi.
C'est le point tristesse de la semaine, et moi ça m'a vraiment touché. Hier, je me suis endormi presque.
Et en plus, c'était une très très belle soirée.
Et c'était une belle soirée.
C'était vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus sur toutes les années de la chaîne, et évidemment de la Music, mais qui avait en plus une résonance particulière parce que chaque clip c'était ou un truc historique de la chaîne. Ils ont fini par diffuser le tout premier clip qu'ils ont diffusé sur No Life à la fin, comme pour un peu boucler la boucle finalement.
Ce qui est dommage, c'est que toutes les archives de la chaîne, il y a eu des documentaires, des choses comme ça, ces choses-là
et plein de super émissions
vont disparaître.
Non, il y a peut-être des choses qui vont aller sur d'autres, sur d'autres channels.
J'espère que ça va être sauvegardé de manière audio parce qu'il y a eu des reportages extraordinaires.
C'est à souhaiter. Et par contre, tu vois, la question que cette situation me fait me poser, c'est quand la décision a été prise et surtout quand les équipes ont été prévenues, parce que au Magic, donc en fin février, moi j'ai croisé leur journaliste jeux vidéo qu'on avait croisé à l'E3 déjà, ouais. Et pour eux ils allaient à l'E3, c'était acté.
Oui, mais ils l'ont dit, il y a quelques personnes qui dans leur discours d'adieu justement
disaient qu'ils avaient appris quelques jours avant.
Voilà, c'est en gros, on l'a su un petit peu avant vous, mais pas beaucoup. Donc à mon avis, ça devait être au mois de mars ou peut-être fin février qu'ils ont dû apprendre que la chaîne était plus solvable et en mesure de rembourser les créanciers. Ouais. En tout cas, c'est ce que quelques personnes ont dit hier, c'est qu'ils l'ont appris relativement peu de temps avant le reste des téléspectateurs.
Ouais, ça a dû se faire tard parce qu'en fin février, ils pensaient qu'ils allaient à l'E3 et tout, c'était acté, tu vois. Donc c'est.
Bon, en tout cas, on pense aux équipes, on leur envoie toutes les bonnes ondes dont ils pourraient avoir besoin, des gros bisous.
Et la chaîne continue d'émettre. Sébastien Ruchet ne sait pas encore pour combien de temps, mais là, vous avez une rediff des derniers programmes qui tournent encore sur
No Life. Ils ont appelé ça le zombie.
No Life Zombie.
No Life Zombie, voilà.
Donc voilà, une page qui se tourne avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion.
Et on a énormément de respect pour ce que vous avez fait, les gars, et beaucoup de tendresse aussi pour vous tous. Voilà.
Bon. Et prenez un peu de repos.
Eh ben, on va pouvoir passer au premier thème après cette nouvelle un peu triste. À moins qu'Eve, il y ait des personnes qui réagissent à la disparition de No Life.
Non, je crois qu'il n'y a pas trop de téléspectateurs de No Life ici. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le test de God of War et Spider-Man. Puis tout à l'heure, ça parle de God of War aussi. Donc ils attendent ton verdict.
De God of War.
Ce sera pas aujourd'hui, les gars, pour God of War.
Non.
Désolé. Hein.
Alors là, je sais pas. Franchement, je sais même pas. Il sort quand normalement le test, vous savez, vous?
Ah, pas
oui,
du tout.
Je le dis. Qui c'est qui l'a fait pour la rédac?
C'est toi.
Hop.
Ce mec n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. C'est pas
moi.
Pire que Poufy. Hein,
c'est un peu le Dory de la, le Dory de la rédaction. Salut, je m'appelle Plume.
Poufy, je crois qu'il connaît un petit peu le jeu aussi. Alors, le premier thème de la semaine, c'est Spider-Man. Évidemment, Marvel Spider-Man, le jeu d'Insomnia Games, donc, qui a été un peu plus révélé la semaine dernière par Game Informer, qui lui consacre sa couverture du mois de mai 2018. Mai 2018, qui évidemment paraît en avril, puisque c'est comme ça que la
magnifique
presse fonctionne.
Magnifique couverture d'Alex Ross, soit dit.
Absolument, oui. Un artwork vraiment, vraiment somptueux. Et à travers quelques petits extraits vidéo supplémentaires, mais pas beaucoup hein, quand même par rapport à ce qu'on avait déjà vu du jeu, et de multiples articles qui ont déjà été postés, dont une interview sur laquelle on va revenir, qui est en fait un enchaînement de questions, de 104 questions en rafale à la mitraillette, qui est d'ailleurs très drôle au passage, qui donne quand même quelques petites informations très importantes sur le jeu. On a pu en apprendre un peu plus. Alors, on vous a posé la question via un sondage. À vous, chers lecteurs, si vous étiez hypé ou pas par Spider-Man, vous êtes 56% à être hypé, 22% moyennement et 21% pas du tout. Je soupçonne les 21% d'être des personnes qui ont voté non juste pour le plaisir.
Ou qui ne jouent pas sur PS4.
Ah non, mais tout le monde s'intéresse pas aux comics.
On a le droit de pas du tout aimer Spider-Man.
Ouais,
hein.
Je soupçonne quand même qu'il y ait un
on
petit
a tout
peu
à fait
de
le
mauvaise foi.
Mais comme dans tous les sondages.
Pourquoi pas.
Ouais.
Comme dans tous les
non. Non, Romain. Bah, non, mais c'est pas une dictature.
Ça veut dire
qu'à
80%, ça veut dire qu'il y a 80% de mecs que ça intéresse. C'est quand même déjà pas mal, non?
Ouais, ouais, non, mais ça va. Du
non, mais ils préfèrent pointer du doigt les gens qui ont pas répondu ce qu'ils voulaient, tu vois. Les vilains lecteurs.
Je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément attachés aux comics et à Spider-Man, etc.
Non, mais c'est vrai, c'est possible. Vous pouvez pas nier que dans les sondages de ce genre, dans les gens qui disent qu'ils ne sont pas intéressés, t'as des joueurs Switch ou des joueurs Xbox qui n'ont pas de PS4 et qui vont venir rager parce qu'ils peuvent pas jouer à ce jeu-là.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. J'ai pas vu la question dans les commentaires sur la news de la date. Là, j'ai pas vu la question. Il sort quand sur Switch? Tiens, c'est vrai qu'on aurait pu se poser. Bon, bref.
Je pense que Eve va bientôt la voir sur le chat.
Le jeu Spider-Man vous intéresse-t-il? Oui, non, oui, mais uniquement sur Switch.
On connaît maintenant sa date de sortie, donc c'est le 7 septembre prochain, donc à la rentrée. Une date plutôt adéquate. Hein. Je crois que là, pour l'instant, les gros jeux sont en train d'essayer de prendre les endroits qui sont encore un peu libres avant et après Red Dead Redemption 2. Donc,
c'est-à-dire que début septembre, tout le monde va crever.
Dans les westerns, t'as les plans où il n'y a personne et t'as juste le truc de foin qui passe dans le
village.
Après Red Dead, ça sera ça, les sorties de.
Ça risque d'être un peu ça, oui. Qui va d'ailleurs donc se retrouver quelques jours après Dragon Quest 11 qui sort le 4 septembre, une semaine avant Shadow of the Tomb Raider qui lui sort le 14 septembre, et deux semaines avant Spyro Reignited Trilogy.
C'est bien, c'est qu'on va tous avoir notre jeu à tester.
Exactement. Ça va être un peu mieux réparti que d'habitude. Mais ce Spider-Man, donc on en a appris un peu plus. On va en discuter tous ensemble. On sait déjà que, par exemple, le framerate sera bloqué à 30 images par seconde sur PS4 et PS4 Pro, ce qui est quelque chose qui fait enrager un nombre de joueurs incroyable, notamment sur Twitter. Et même dans les forums hein, d'ailleurs, dans le forum de Gameblog, le nombre de personnes qui arrivent qui disent « Mais c'est pas possible, ils se foutent du monde, ils maîtrisent pas du tout la PS4 enfin,
après,
je veux dire, vous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un jeu va tourner à 30 images par seconde, bloqué ?
Ça me dérange pas plus que ça, mais il faut bien avouer que quand tu prends l'habitude de jouer en 60 FPS, c'est un confort.
On n'a pas vraiment pris l'habitude de jouer à 60 FPS.
Oui, surtout à Spider-Man, on n'a pas encore pris l'habitude d'y jouer. Donc,
non, je parle d'une manière générale.
On n'a pas pris cette habitude, je trouve.
Il y a peu de jeux qui sont en 60 FPS. Mais il suffit d'un jeu. Il suffit d'un jeu où tu peux le faire.
Et d'un signe aussi.
De quoi?
Un matin, si possible.
C'est vraiment agréable. Hein, je...
Ah bah évidemment, mais c'est mieux.
À plus forte raison dans un jeu qui est autant chorégraphié en fait.
Mais le jeu va être en 4K, il va être magnifique, ça se voit quand même.
Mais en gros, ils ont prévu de faire un mode. Ils ont pas prévu de faire ce que font certains jeux, te laisser le choix entre soit les FPS ou la performance graphique quoi.
Je crois qu'ils ont clairement, ils veulent clairement mettre plein la vue avec ce Spider-Man. Donc ils ont fait le choix de locker à 30. Y compris sur PS4 Pro.
Il y a quand même des choses plus intéressantes que ça qui ont été dévoilées.
C'est ultra détaillé.
Il est quand même super beau.
Et puis c'est ultra dynamique surtout.
Ouais. Et c'est un monde ouvert. Parce qu'il faut pas... Ça, on ne le savait pas à la base que c'était un monde ouvert. Et donc, avoir ce tel niveau visuel tout en proposant un monde ouvert, parce qu'il faut se rappeler que les jeux en monde ouvert, ça a toujours nécessité des compromis d'un point de vue graphique. Rappelez-vous, les premiers GTA en 3D sur PS2, visuellement, ils étaient quand même largement en dessous de ce qui se faisait en termes de 3D.
Ou le Spider-Man qu'on est en train de voir juste à côté de nous sur PS1.
Et donc là, il s'annonce quand même super beau. Moi, j'ai pas de PS4 Pro et je suis un peu deg parce que Spider-Man, moi, j'ai envie d'y jouer de la manière la plus avancée possible et j'ai clairement envie d'y jouer sur PS4 Pro et c'est...
Eh bah écoute, on y jouera sur PS4 Pro en 30 images par seconde et c'est pas très grave.
Non,
parce que ça
grave.
Fait déjà. Ça fait déjà baver quoi quand on voit ce qui se passe.
Truc le plus génial depuis le début, je trouve, c'est la. C'est tout ce que tu peux faire avec Spider-Man quoi. Toutes les façons de surprendre les gardes, de les accrocher au
très
plafond,
Batman Arkham
utiliser le décor aussi,
tu vois,
les mouvements du personnage qui sont super classe, super agiles.
Alors attendez, Eve vient de me taper sur l'épaule, je crois que c'est pas pour aller faire pipi, je crois que c'est pour me dire quelque chose.
Maîtresse,
pas
je peux
aux toilettes
sortir.
S'il vous plaît. non juste pour le 30 fps, il y avait Julio qui vient d'arriver qui Julio. Disait moi ce Spider-Man même en 30 fps ça serait une claque, un monde en ouvert. Oui,
un monde ouvert.
Oui, excuse-moi. Ouais, pas le choix. Et par contre, il y avait Poséidon 69, salut, qui disait Horizon était en 30 FPS, c'était splendide et c'était très jouable.
Exact, Horizon est un jeu sublime.
Oui, mais c'est toujours dommage de ne pas laisser la possibilité, tu vois, de sacrifier peut-être.
Mais ce qui est important, c'est la fluidité de l'ensemble.
Mais vous êtes des dictateurs, donc vous vous en foutez de laisser le choix aux gens.
Non,
mais...
c'est ce qui est important.
Moi,
c'est
que je suis un démocrate.
Ouais. C'est que ça soit locké, que t'aies pas des baisses et des augmentations
constantes
vraiment...
sur les 30 FPS.
Voilà, vaut mieux ça qu'un 60 FPS qui est pas stable.
Exactement.
Et avec des grosses chutes que tu sentirais vachement pour le coup.
Voilà, et qui t'empêcherait et freinerait un petit peu l'immersion au passage.
L'important, c'est qu'il y ait pas de ralentissement.
Non, l'important, c'est d'aimer.
Ouais. Bien sûr, avant toute chose.
80% des répliques de Thomas sont composées de paroles de
chansons. Exactement, d'ailleurs ce sera nous dès demain. Il faut que je le rappelle.
Demain matin.
Ouais. Non,
non, non, non, non, ce, non, ce sera nous dès demain.
Ce sera nous le chemin. Ouais, c'est ça que
exactement. On parlait donc du lock du framerate. On a pu apprendre aussi, toujours par cette petite interview du directeur créatif, que le cadre de ce jeu en monde ouvert serait beaucoup plus vaste que celui de Sunset Overdrive, qui est le dernier jeu en monde ouvert de Insomniac. Et Sunset Overdrive avait une belle surface de jeu déjà à l'époque, même si Sunset Overdrive, à chaque fois on en parle en se disant ouais c'était pas mal, alors qu'en fait ça se trouve il était super bien. Et on a tous été
C'était pas mal,
ouais, mais je crois qu'on l'a un peu dénigré.
Je crois que tout le monde est un peu passé au travers de Sunset Overdrive, hein.
Je pense aussi
en fait, c'est pas un jeu qui a marqué
l'ambiance, elle s'adressait pas à un public
très adulte.
Ouais, pas un public européen en fait. On n'a pas les mêmes sensibilités forcément que les Américains, et on n'était clairement pas le public visé avec Sunset Overdrive. Ou alors ils se sont un peu ratés en termes de manière de présenter le jeu, mais c'était pas pour nous, vraiment pas. Et la superficie de la map, moi j'adore les jeux en monde ouvert. Et je suis partagé parce que faire des mondes de plus en plus grands, oui, mais il faut le remplir, tu vois. Et il faut que le monde ait une raison d'être grand comme ça.
Pourquoi le remplir quand tu peux te balader à peu près partout avec l'étoile, aller n'importe où, marcher sur les immeubles comme tu veux et prendre le métro quand même. Tu vas pouvoir prendre le métro en costume de Spider-Man. Ouais, mais en costume de Spider-Man avec ton téléphone à la main. Et les gens n'en ont rien à foutre.
Mais tu regardes
la
petite vidéo, parce que
les gens s'en battent les couilles que Spider-Man soit dans le métro.
Alors que tout le monde pense qu'il y a un attroupement incroyable.
Ouais, voilà. En fait, il s'imagine que c'est un pauvre cum qui
mais oui, mais tu vois des trucs même en.
Cela dit, à Los Angeles, moi je suis tombé sur Spider-Man avec Romain, on s'est pas arrêté. On est passé comme si c'était.
Voilà, mais même.
Ça se trouve, c'était lui.
Bah, c'était peut-être le vrai, ouais. Mais non, il sait pas trop sa zone d'activité, Los Angeles.
Mais tu sais pas ça. Voilà, comme
il était peut-être en vacances.
Exactement. À la Comic-Con, j'étais tombé sur Super Mexico. Je peux te dire qu'il avait un succès fou.
Super voilà. Mexicaine. Non, mais c'est vrai que dans le métro, tu croises des fois des trucs un peu, des gens un peu bizarres et tu fais comme si tu les avais pas vus. Donc c'est pareil. Mais oui, c'est cool que la map soit de plus en plus grande, mais à condition que ça ait une raison d'être grand, tu vois.
Oh bah, ça devrait être le cas de toute manière. On sait aussi également
en général
que...
ils les remplissent beaucoup les mondes ouverts. C'est le problème, c'est que souvent ils les remplissent avec des trucs chiants quoi. Surtout que la qualité de
ou du remplissage. On sait qu'il y aura beaucoup de civils avec lesquels on pourra interagir, notamment faire
livrer
des paquets avec eux. Livrer des paquets, non justement. C'est des questions auxquelles il a répondu. Livrer les pizzas, il y aura pas, par exemple. Normalement, en tout cas.
Mission d'escorte.
Mais on pourra faire des selfies avec eux, on pourra faire des high five, faire
ça, c'est beaucoup mieux. Voilà.
Le gun, je sais plus comment on appelle le gun pointing.
Tu verras dans
ce sport,
tu fais des selfies aussi et c'est rigolo. Donc
mais tu vois, c'est là où je trouve que Spider-Man a potentiellement un avantage sur les Batman Arkham. Mm-hmm. C'est que oui, les derniers, ils nous faisaient des maps en monde ouvert. Sauf que c'était que des criminels dans le truc. Ils avaient trouvé l'excuse du quartier,
bloqué,
en quarantaine, bloqué, etc., où les prisonniers étaient en liberté, mais bon, c'était un peu vide et c'était un peu dommage. Alors que là, ça te dire que tu vas pouvoir potentiellement croiser des ennemis, mais aussi devoir faire avec la population, les passants, etc. Et peut-être, alors je sais pas du tout si ça sera le cas, mais si par exemple dans tes missions de combat, etc., devoir faire en plus attention qu'il y ait pas de pertes civiles, ça pourrait être intéressant, tu vois, devoir mettre hors d'état nuire les méchants tout en protégeant la population, comme là un peu ce qu'il fait avec l'hélicoptère, hein, qui s'écrase pas en pleine rue, sauf que avec cette idée-là, mais dans des missions de combat au corps à corps sur le trottoir par exemple, truc comme ça, ça pourrait être pas mal.
À la Superman 64, tu veux dire?
Moi, j'évite de comparer les jeux à Superman 64.
C'est l'un des meilleurs jeux de super-héros qu'on ait jamais rencontré.
C'est pas l'étendard, mais c'est le repère.
Le niveau zéro.
Ouais, c'est le.
On pourrait faire un truc comme ça, les pires jeux de super-héros.
Ah bah, il y a de quoi faire.
Putain,
ça va être difficile, dis donc. Hein.
Ouais, donc,
oh là là, on va en bas.
Tu rigoles, ça va être difficile de faire un choix.
Il y a le mode photo. Il y a le mode photo qui a été ajouté aussi, donc dans certains jeux, tu dis que c'est un peu gadget, mais dans Spider-Man. C'est complètement cohérent avec le personnage, parce qu'on se rappelle que Peter Parker, il vend ses photos au Daily Bugle de Jameson.
Absolument.
Et c'est lui, pour le coup, qui a un accès privilégié aux photos exclusives de Spider-Man. Donc, je trouve qu'ajouter un mode photo dans ce jeu-là, c'est pas idiot. Ça peut même être plutôt cool.
Bon, ça peut faire partie des bonnes choses du jeu qui, rappelons-le aussi, n'aura pas de microtransactions. Voilà,
ils ont été catégoriques.
Ah oui, le Elno est sorti d'un seul coup. On sait aussi que la trame va s'étaler sur plusieurs semaines, qu'on pourra incarner non seulement Peter Parker dans le costume et hors costume, mais aussi Mary Jane.
C'est cool ça.
Ah bah ça peut être parce que. Alors là, je suis pas très au fait de Spider-Man, mais Mary Jane, elle devient Spider-Woman si je ne m'abuse.
Je sais pas.
Ou c'est un autre personnage. Alors là, c'est peut-être le
chat qui. Il y a plein de variantes et plein de
parce que je sais jamais en fait,
etc.
Je sais jamais qui est la femme de Peter Parker dans l'univers Marvel principal.
Bah, mais Mary Jane, c'est sa femme. Après, il y a.
Mais je sais pas si c'est Mary Jane
Stacy.
Gwen Stacy, c'est celle de son amour de jeunesse ou c'est la nouvelle? C'est ça en fait.
Je finis par me mélanger moi avec tout ça.
C'est un sacré bordel à chaque fois.
Mary Jane, c'est pas la dernière.
Gwen Stacy, c'est la rousse.
Gwen Stacy, je crois que c'est celle qui rencontre au lycée.
C'est la première. Oui, c'est la première, ouais.
Ah, voilà, vous venez de résoudre un problème. Donc voilà, c'est donc Mary Jane qui va devenir Spider-Woman.
Et un autre point intéressant, c'est qu'on n'assistera pas à la mort de l'oncle Ben. Donc c'est pas une origin story. Hein, de toute façon, ça fait longtemps qu'on sait qu'au moment où le jeu commence, Spider-Man est Spider-Man depuis un certain temps déjà. Donc c'est pas le noob qui découvre ses pouvoirs.
Non. Bon, on peut reparler un peu du gameplay. Avec tout ce qu'on a vu, vous n'avez pas peur quand même que ce soit la foire au QTE, encore une fois.
Oh, putain,
c'est quand même une chose qu'on avait assez pointé du doigt lors de l'E3 quand il avait été montré.
Non, parce que
moi
je
l'avais pas pointé du doigt parce que
moi non plus.
Si c'est
non,
bien
on, j'ai dit on. Hein, ouais. Tu n'es pas on, Romain.
Ah, c'est toi, c'est toi et Thomas qui avez dit ça. Eh ben, les gars, vous avez totalement tort. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est que il y a des QTE, mais on voit bien dans toutes les séquences qui ont été dévoilées qu'il y a aussi énormément de free fight dans lesquels il se passe quand même des trucs super.
Toujours à la Batman d'ailleurs.
Ouais. Et voilà, dans les combats, mais aussi dans les phases un peu infiltration, etc., où tu sembles avoir des choix et où c'est pas des QTE. Les QTE, c'est des moments un peu what the fuck avec l'hélicoptère, etc. Mais
bah, c'est-à-dire qu'on a vu une séquence où il y a énormément de QTE qui s'enchaînent. Ça veut pas dire que c'est forcément représentatif du résultat final.
Mais des QTE, il y en a partout. Donc, d'avoir il y en a.
Depuis le début de la série, il y en a en tout cas.
Je sais pas. Oui. En tout cas, dans les premiers God of War, il y a toujours
mais
eu plein
ça
de
n'empêchait pas que t'avais des finishes de boss justement qui procuraient énormément de satisfaction, alors que c'était effectivement des QTE qui étaient pas forcément très très profonds.
Le QTE, quand c'est bien utilisé, ça peut te faire ressentir des choses que tu pourrais pas ressentir avec des phases de gameplay classique
ou qui seraient moins bien exécutées.
Voilà, ou par exemple la violence de certains finishes dans God of War sont exacerbées grâce
par le fait de
marteler
un bouton ou ce genre de truc,
grâce à l'utilisation du QTE. Donc moi je fais pas partie de ces gens qui sont automatiquement réfractaires au QTE. Je pense que ça a clairement
sa place. Si ça existe encore, vraiment.
Ça a clairement sa place dans le jeu vidéo quand c'est bien fait et quand c'est pas utilisé de manière abusive.
Bon, alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est votre niveau de hype s'élève à combien en pourcentage, mon cher Romain?
Moi, il est très élevé en pourcentage.
Même en sachant qu'il y aura pas d'autres persos Marvel majeurs.
Oui.
C'est
oui, parce que j'aime
t'auras
bien.
Pas, t'auras pas kiffé qu'il y ait un petit. Parce que ils ont évoqué le fait qu'il y avait une grosse tour avec un A quand même dans ce New York, tout en disant qu'il y aurait pas de personnage Marvel majeur. Donc c'est un peu dommage.
Le Marvel Cinematic Universe ne s'est pas fait en un jour. Avant Avengers, il y a eu Iron Man. Donc faut bien commencer quelque part. J'avais pas du tout réfléchi, tu vois, Spider-Man en tant que tel, ça m'allait très bien. J'avais pas du tout réfléchi à ça. Si ça peut mener à d'autres choses, c'est encore mieux. Après je sais qu'il y a
Square
Enix qui bosse sur Avengers, donc il y a pas de frustration à ce niveau-là pour moi, enfin pour l'instant en tout cas. Et Spider-Man, c'est un personnage qui est très cool et le jeu a l'air il s'annonce vachement bien. Moi ma hype là, si je devais la chiffrer sur 100%, je dirais 87,8.
Ah ouais, quand même, c'est précis. Thomas,
moi,
toi, c'est Osef.
Elle doit tourner autour de zéro, voire
c'est un peu un esprit de contradiction,
voire dans le négatif. Non, non, mais parce que c'est très simple.
Bah, c'est commercial.
Il y a peu de choses qui m'intéressent aussi peu que les super-héros. Vraiment, c'est un truc dont j'ai rien à faire, mais rien du tout.
Toi, tu préfères un super-héros dont le pouvoir c'est le violoncelle.
Et du coup, je joue de la basse et de la batterie, pas du violoncelle.
Je sais que tout c'est.
Donc, toi, tu préfères les super-héros qui bloquent les facs de Tolbiac, par exemple.
Ouais.
Faire le coup de poing avec les policiers, pour toi ça c'est des vrais héros.
Donc,
par exemple,
même si j'aime les jeux d'Insomniac, etc., et que le jeu a l'air objectivement très bien foutu, comme le personnage je m'en fiche totalement. Parce que je sais que j'ai raison, en fait. Donc, moi, malheureusement, je ne l'attends pas, mais c'est à cause du personnage, en fait, parce que je m'en contrefiche d'incarner Spider-Man.
T'aurais mis un bloqueur de fac à la place de Spider-Man.
Ça pourrait être intéressant, mais faites un jeu sur les bloqueurs de la fac de Tolbiac, écoutez.
Non, t'incarnes Alexis Corbière, là, c'est ça.
Non, quand même pas.
C'est beaucoup mieux.
Donc non, malheureusement, moi je l'attends absolument pas, mais je le dénigre pas. C'est
et
juste
s'il
que
avait été en 8 bits,
c'est juste que personnel. Non mais non, je m'en fous. Les super héros en 8 bits ou
les gars, arrêtez de m'emmerder. Vous dites qu'il n'aime pas les super héros.
Le Batman.
Comment vous voulez qu'il attende Spider-Man?
Mais
merde.
De toute façon, c'est
le
toujours
Batman de Sunsoft sur NES.
C'est
t'as pas plus
toujours. Oui, si, il est sympa.
Voilà,
bon,
parce
voilà
que c'est du pixel art et c'est un Ninja Gaiden.
Non, c'est pas du pixel. C'est pas du pixel art à l'époque.
Quel
c'est un jeu NES.
De Batman de sur NES.
Batman sur
Sunsoft.
Non, qui était un jeu sympathique.
Mais sur Amiga,
mais j'arrive pas.
Un peu trop facile.
De toute façon, c'est toujours pareil ici. Quand on n'aime pas un truc, on est vilipendé, crucifié en place publique.
C'est
maintenant
ça.
Je commence à avoir l'habitude
parce que tu participes défendre aussi au jet de pierre, je te signale, quand c'est les autres qui sont ciblés.
Tu rigoles, tu dis ça alors que moi je m'en prends plein la gueule à longueur.
Bon,
de temps.
Romain, t'arrêtes de ronchonner.
Oui, mais moi regarde, c'est avec le sourire. C'est,
bon,
c'est ça toute la différence.
Il y a Cousin et Pixel Art là.
Donc la réponse c'est autour de zéro. Voilà, si on
Pixel Art, venez. L'école est finie. Shenmue, qu'est-ce que t'en penses? Et ben écoute, moi je fidèle à mes opinions politiques, je suis pile poil entre les deux énergumènes sur ma droite. J'aime le super-héros, mais je suis pas un grand fan, et donc voilà, je vois bien que le jeu a l'air très réussi. Je suis très confiant dans les qualités de Insomniac, qui est un studio vraiment mais hyper talentueux. Tout ce qu'ils touchent, ils le font bien. Alors on a cité
Ratchet surtout.
Pas que Ratchet.
Non, pas
tout
que,
ce qu'ils
justement.
Ont fait.
Ratchet surtout.
Spyro était un excellent. Même si je suis totalement passé à côté, un excellent jeu de plateforme.
Rappelez-vous ce jeu en coop de tir à la troisième personne sur PS3 et 360.
Alors c'est peut-être la seule exception.
Qui était une daube.
C'était la seule exception.
C'est quoi déjà son nom ?
J'arrive plus à.
Romain, c'est trop facile parce que c'est la seule exception.
Non, mais tu peux pas dire tout ce qu'ils font, ils le réussissent.
Ouais, ok. Presque tout.
C'était Fuse, non ? Je sais plus le. Non, c'est son premier nom peut-être.
Non, c'était pas. Je sais plus.
Je me rappelle plus du nom.
Mais parce que je me rappelle d'une présentation avec, en compagnie de Tate Price de ce jeu où on était tous les journalistes français en train de se dire mais c'est nul à chier, t'as Tate Price qui nous regardait.
Alors les copains, vous trouvez ça bien? Non mais là on voit bien qu'il y a quelque chose quoi d'assez puissant dans le
dans les idées, dans la réalisation. Quand tu leur donnes les moyens, parce qu'en fait Insomniac, tu te rends compte qu'ils galèrent un peu quand c'est leur propre projet lié à personne, tu vois. Quand ils ont le soutien de quelqu'un derrière, ça leur donne plus de liberté, de possibilité de faire ce qu'ils ont vraiment, de pousser leurs idées, voilà, de l'oseille, de pousser leur truc à fond. Et c'est un studio qui est clairement talentueux.
Donc je suis à 70%, on va dire. Voilà.
Ah, c'est pas là, tu te situes pas entre nous deux, du coup.
Oui,
ah.
Pas mathématiquement.
Bah si, parce que toi, c'est 0, moi, c'est 87,8.
Bah oui, donc si tu divises 87 par 2,
bah lui,
ça fait
il
pas...
se met à 0, alors c'est un peu trop difficile d'être exactement.
Mais excusez-moi d'avoir une opinion, les gars. Hein.
Parce que tu crois que moi, j'ai pas d'opinion.
Parce que moi, j'ai pas d'opinion, parce que je suis miné, c'est trop facile.
Et la pauvre,
est-ce que ça me le prend tout le temps en pleine gueule.
À partir du moment où notre opinion n'est pas la sienne, elle ne compte pas, ça veut dire qu'on est des passe-plats.
Ah non, là
tu es
en train de parler de Julo là.
Bah, oh mais merde, bordel, on va arrêter tout de suite ce débat stérile.
Shenmue, Yakuza, Pixel Art. Taisez-vous et laissez parler.
T'es pas obligé de me pointer du doigt. Hein.
Bon,
laissez parler League of Legends.
Bon, alors, pour la hype des game bloggers, il y avait Fenrir, il était à 70%, Nathan 90%, QGamer 100%.
Étonnant.
Et il y avait Antoine Lu 0,5%.
Bon, par contre, un peu plus que Thomas.
Voilà, par contre, God of War, il atteint. Et.
Bah, je suis plus hypé par God of War.
Il y a Geoffrey Carroll qu'on aime
bien,
beaucoup.
C'est très bientôt.
Ouais, Geoffrey Carroll qu'on aime beaucoup.
Vous coupez encore une fois Eve.
Ce que tu viens de faire.
Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas ce que je viens de faire.
T'as carrément pris le micro.
Mais l'avantage, c'est que toi, quand tu la coupes, du coup, on l'entend plus. Oui, alors que nous, elle continue à parler. C'est un peu ça le scandale.
Mais
quand
du coup,
même.
Si qu'est-ce que tu leur fais?
Je te laisse deviner.
Ok.
Bon, allez, vas-y, Eve.
Je devine. Geoffrey, 75%. Et Bloody Seb, moins 20%.
Moins
20%. Ah ouais. Il est très hypé. Il y avait Niatti, excuse-moi, qui se demandait si on peut jouer Miles Morales.
Il est dans le jeu. Pardon. Il est dans le jeu et je crois qu'ils n'ont pas encore répondu à cette question. Une question qui est récurrente, qu'on leur pose fréquemment. On sait qu'on on l'a vu dans un trailer d'ailleurs, Miles Morales, hein, mais on ne sait pas encore s'il sera joué.
Il est à la fin du premier trailer.
Ça ne m'étonnerait pas.
Ouais. C'est le mec dans l'hélico là?
Non, Miles Morales, en fait, c'est un jeune étudiant...
qui va devenir Spider-Man,
qui va à la fac de Tolbiac, non?
Qui devient...
Ah, dommage.
Il bloque les facs. Ah, bah d'un seul coup, ta hype est remontée de 52%. Qu'est-ce qui se passe?
On le voit, c'est vrai qu'on le voit avec une pochette d'art plastique en plus.
Insurrection Simulator, ouais. Avec la veste.
Il a un Diabolo là, tu sais le truc.
La veste kaki avec
c'est
le
patch. C'est facile de se moquer des fardacs quand on n'y a pas foutu les pieds.
Le patch du Che.
Absolument.
T'as fait encore autre chose?
Ah non, j'ai fait une fac.
Une dernière question de Nathan.
Bah non, il a fait une fac, il a
étudié. Nathan Gouzin, tu te souviens de lui, Romain?
Nathan?
Oui.
Bah comment l'oublier?
Voilà, très bien. Mais il a une question justement.
Nathan, c'est mon partenaire dans Sea of Thieves.
Oh putain. Et en plus, ça serait une question plutôt
pour toi.
Arrête
de me pointer du doigt.
Ça serait une question plutôt pour toi, Romain.
Et bah vas-y, pose-la.
Est-ce que la qualité d'Infinity War peut jouer sur le succès du jeu?
La qualité d'Infinity War pesait sur
Avengers le film.
Oui, je sais, j'ai bien compris. Merci de m'expliquer sa question, mais c'est juste que je vois pas comment
le
film peut.
Et on fait des trucs dans le noir.
C'est trop tard en fait.
C'est trop tard, d'accord.
Parce que si Infinity War était sorti l'année dernière à la même époque et qu'il y a des trucs sur de Spider-Man,
c'est
vraiment...
surtout par rapport à Spider-Man Homecoming, je pense, hein, qu'il fallait voir. Et ça fait.
Ah, c'est par contre, c'est possible qu'Homecoming ait influé sur certains éléments du truc. Bah quand tu vois que c'est le même personnage et que tu vois dans un film que les gens ont vachement réagi à certains trucs aussi bien qu'en mal, ça peut influer quand il reste du temps de dev. Là le jeu sort début septembre, on est en avril, Infinity War sort fin avril, c'est beaucoup trop tard pour qu'il y ait des changements viscéraux dans le jeu.
De toute façon il est comme il est quoi le jeu, et il plaît déjà à beaucoup de monde. Absolument. On va passer au deuxième thème maintenant. Hein. Je pense que t'avais pas fait un petit sondage sur Twitter d'ailleurs aussi de ton côté. Ouais. Et alors?
On en a parlé tout à l'heure. Ceux qui sont hypés totalement. Attends, je vais peut-être actualiser la page. Ça serait plus intéressant. Hop là, ceux qui sont hypés totalement, ils sont à 51%, et ceux qui sont hypés bof bof, 49%.
Après, c'est bien, c'est que l'offre en jeu vidéo est suffisamment large et variée pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc moi, que quelqu'un me dise ça m'intéresse, Spider-Man m'intéresse absolument pas.
Non, mais c'est mieux que ça.
Bon, ça avait l'air de te choquer un peu plus que
mais
ça.
Non,
quand
il l'a dit,
ça m'intéresse pas et j'ai pas envie que ça t'intéresse. C'est ça aussi, hein, que
c'est
il faut
retenir
sur Twitter. C'est ça t'intéresse pas et en plus. Enfin, ça m'intéresse pas moi, mais en plus j'ai envie que toi tu ne l'apprécies pas. C'est ça
m'énerve que tu l'apprécies.
Et voilà, et ça m'énerve que tu l'apprécies.
Ça, c'est très cool.
Eve, tu voulais dire encore quelque chose ?
Ouais, non, c'était juste Squall qui faisait remarquer que, d'ailleurs, il vient d'arriver, je crois, il y a Venom qui sort en octobre. Donc,
Et il y a Venom qui sort en octobre et.
Bah, je sais pas.
Donc, un mois et demi après le jeu, du coup, c'est pareil.
C'est une bonne fête. Enfin, ça va être un truc un peu plus bizarre, je crois, pour Venom. Hein, parce qu'on le verra pas beaucoup, on verra Tom Hardy.
Tu vois, pour le coup, moi j'adore les films de super-héros, mais alors ma hype. Pour Venom, elle est au niveau de Thomas pour ce jeu. Elle est à 0%. Quoi.
Ça a l'air chelou.
Ça m'a pas fait envie du tout.
Ouais, ça a l'air bien chelou. On va passer au thème numéro 2.
Oui.
Messieurs, ça va être surtout Romain et Thomas hein, qui vont s'exprimer. Et
mais avec un challenge, c'est de pas faire plus de 5 minutes sur chacun de vos tests.
5 minutes douche comprise pour chacun des jeux dont nous allons...
Vous devez expliquer et convaincre le jury.
Voilà, exactement.
Jury qui se trouve devant nous.
Greffier, ici. Greffier Julot. Très bien. Activer le chronomètre, s'il vous plaît.
Alors, on commence avec lequel ?
On commence avec vous aussi la prochaine
Okuto Gagotoku, à savoir Ken le Survivant, donc qui est sorti au Japon sur PS4. Un jour, il arrivera chez nous, on ne sait pas encore quand. Romain, tu l'as testé en japonais et tu as un avis à nous livrer immédiatement.
Donc, tu parles beaucoup mieux japonais maintenant.
Non, mais mine de rien, quand tu passes ton temps à jouer ou à regarder des trucs en japonais, et ben, tu finis par retrouver des mots et c'est un moyen d'apprendre la langue au moins de manière parlée.
Un peu comme Antonio Banderas dans le 13e guerrier, quand il apprend le viking en 2 semaines, à force de les avoir entendus.
En 2 semaines, c'est peut-être un peu juste.
Ouais, parce que ça, il sait le faire.
Mais ça aide, hein, y a des bribes de phrases par moment que j'arrive à comprendre. C'est comme tout, au moins c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Mais bref.
Shindelu.
Voilà,
ça, tu le connais maintenant.
Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et
absolument.
Ça, tu le reconnais.
Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de Ken le Survivant. On va passer maintenant à Penny.
Non, ça va, je plaisante.
C'est donc clairement un spin-off de Yakuza. Hein, les mécaniques sont totalement reprises, mais plus de Yakuza 0, Yakuza Kiwami que de Yakuza 6. Déjà, on revient sur le moteur de Yakuza 0 pour le meilleur et pour le pire, parce que ça te permet de jouer en 60 FPS. Yeah! Mais visuellement, c'est moins beau que Yakuza 6. Bouh!
C'est l'ancien moteur. Hein,
oui, c'est l'ancien moteur. Parce qu'ils expliquaient que c'était plus simple pour eux d'avoir un rendu cel shading, enfin manga-like, en utilisant l'ancien moteur plutôt que le moteur de Dragon Engine. Bah oui, ça passe. Il y a des séquences qui sont quand même bien vilaines. Je pense par exemple des zones en monde ouvert, les passages en monde ouvert où tu conduis le buggy, etc. Là, c'est quand même assez moche.
Qui est affreuse d'ailleurs.
Hein ?
La conduite
qui est affreuse, mais qui s'améliore un petit peu parce que tu peux récupérer des éléments. Il y a un crafting en fait autour du buggy qui te permet de l'améliorer quand tu récupères certaines pièces. C'est pas forcément le truc le plus fun du jeu, mais bon, ça passe.
Mais alors, vu d'un peu loin, quand on a vu tout ce qui a été montré en vidéo sur le jeu. Ça a l'air d'un fourre-tout avec plein de trucs bizarres et de séquences de gameplay différentes. Ma question est donc.
Mais c'est du Yakuza.
Yakuza, c'est quand même avant tout un beat'em all action-aventure.
Là, c'est pareil. C'est juste que, outre l'histoire principale que tu peux faire en ligne droite hein, sans vraiment t'intéresser au reste, sauf parfois le scénario, pour débloquer certains mini-jeux. T'es un peu mené à ouvrir certaines quêtes annexes, mais c'est vraiment des cas minoritaires. C'est très classique pour la quête principale. Tu vas à tel point, cinématique qui se lance, souvent baston juste après, et tu progresses comme ça, tu débloques de l'XP qui te permettent de débloquer des compétences et de nouveaux coups, etc., etc. Mais à côté de ça, en fait, c'est vraiment comme un Yakuza. T'as l'histoire principale qui est très sérieuse, et après, t'as des quêtes annexes qui, elles, peuvent aller du sérieux au n'importe quoi, plus les activités annexes qui, elles, sont souvent dans le n'importe quoi. Donc, tu as la clinique où tu dois enchaîner, faire en sorte de soigner les gentils et de tuer les méchants, mais en réagissant le plus vite possible. Tu as le barman qui... tu te retrouves face à des clients et là, tu dois utiliser les fonctionnalités de la DualShock pour faire les cocktails. Alors, quand c'est le shaker, tu dois secouer. Quand tu dois faire piquer les glaçons, enfin, un truc comme ça, tu dois appuyer le plus vite possible, etc.
Les burgers de tofu.
T'as aussi les burgers de tofu. Le bar à hôtesse où là, tu dois en même temps gérer les tables, envoyer les bonnes hôtesses aux bons clients et en même temps virer les mecs qui foutent le boxon. Mais en fait, c'est ça m'a, parce que moi je connaissais, j'avoue, je connaissais pas extrêmement bien Ken le Survivant à la base. Je m'y suis mis depuis, ça m'a donné envie en fait de rattraper mon retard et mes lacunes culturelles. En tout cas, donc c'est une série que maintenant j'aime beaucoup. Et ça m'a permis de découvrir que le personnage de Kenshiro et le personnage de Kazuma Kiryu, donc le héros de Yakuza, sont très proches dans leur valeur, dans leur manière de se comporter, etc. Et c'est pour ça que finalement, que avec ces connaissances-là, c'est évident. Faire un Ken le Survivant en prenant les bases de structure, de gameplay d'un Yakuza, c'est super logique et ça fonctionne très bien. Surtout que les phases de baston, ils ont vraiment, pour le coup, ils se sont pas contentés de reprendre bêtement les coups, les techniques de Kiryu. Ils ont vraiment adapté au Kuto Shinken et ça marche très bien.
Et alors au niveau du scénar principal, donc, ça reprend tout depuis le départ ?
Non.
C'est une question de Nathan.
C'est comme un mix condensé en fait. Ils ont repris les personnages, plein de personnages célèbres de Hokuto no Ken dans un truc condensé en fait. C'est une réécriture de la mythologie de Ken. En fait, tu peux voir ça un peu comme un OAV.
D'accord.
Tu vois, un OAV qui réécrirait l'histoire de manière condensée.
Ça reprend les scènes cultes quand même.
Bah oui et non, parce que tu croises des personnages cultes, etc.
Que dans l'histoire
pas exactement, non. Bah ils sont obligés de tout regrouper dans le cadre de la ville de Eden et des petits villages que tu peux trouver, des petits points d'intérêt que tu peux trouver dans la map.
Oui, c'est
la
un peu comme Albator faisait ça aussi. Hein. T'as eu des OAV d'Albator qui réécrivaient un petit peu.
Dans Dragon Ball aussi.
Voilà. C'était un condensé.
Et donc oui, voilà, tu vois, c'est pour ça il y a quand même un peu de recyclage de Yakuza aussi. C'est que t'as les jeux arcade auxquels tu pouvais jouer dans les Yakuza, bah tu les retrouves ici. Le casino, même la pièce en elle-même du casino, c'est la même que dans un des Yakuza. Je sais plus si c'était le 0
oui,
ou le
ils ont pris des assets.
Ils ont juste un peu abîmé les décors, tu sais, ils leur ont donné ce côté
un
sépia,
côté post-apo,
un peu post-apo.
Ding dong, t'as même certaines passé de 30 secondes.
T'as même certaines musiques reprises de Yakuza dans certains cas.
D'accord.
Et autre chose, ce ne sont pas les doubleurs de la série. Ce sont les doubleurs historiques de Yakuza qui font un excellent taf. Ça colle vraiment bien. Et je dis ça, sachant que maintenant j'ai regardé Ken le Survivant en VO, donc je sais à peu près quelles étaient les voix d'origine. Ça passe très bien. Dans l'ensemble, c'est du bon boulot. Je pense que pour les fans.
Un bon divertissement.
Les fans de Yakuza qui ont déjà joué à Yakuza 6 se diront ouais, le retour en arrière technique ça fait un peu mal, mais les fans de Hokuto no Ken qui n'ont pas forcément été bien lotis en termes de jeux vidéo. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser et ça marche plutôt bien ensemble. J'espère maintenant que le jeu sera traduit et qu'il sortira. Ah ouais.
T'as mis quelle note ?
J'ai mis 7. Par contre, il ne faut pas. Enfin, s'ils le sortent chez nous, ça serait un peu couillu de le sortir plein pot niveau prix. Surtout que, sachant que Yakuza 6
Pourquoi
sort de manière imminente, cet été on aura en Occident Yakuza Kiwami 2
qui
sont quand même techniquement vachement plus avancés,
mais enfin c'est pas les mêmes jeux, il n'y a pas une raison de.
Oui, mais là c'est quand même enfin là il est plus cheapos quand même, ça se voit.
Ouais, mais faut payer la localisation.
Tu vois Yakuza,
les gars,
Yakuza Kiwami qui est un remake du premier Yakuza, il est
non,
pas
mais
sorti.
Le prix des jeux est pas fixé en fonction de l'âge des moteurs, enfin
bah ça devrait,
sinon putain on aurait des sacrés réduits.
Non mais
je sais pas
mais comment
il est pas moins cher au Japon déjà.
Non, il est sorti. Ah. Il est sorti full price. Bon.
Quoi qu'il en soit, Core Media,
c'est un full jeu.
Dépêchez-vous.
Full price.
Enfin non, c'est, attends, c'est Core Media pour l'Europe.
Oui, parce que oui,
c'est comme c'est Core Media qui s'occupe de Sega
pas
chez nous.
Ouais, mais tant mieux s'il l'est quand il sortira, s'il le
après,
s'il sort.
C'est de la pure spéculation de ma part.
Oui.
Mais je serais vraiment pas étonné qu'il le sorte chez nous et je vais essayer de vous expliquer très rapidement pourquoi.
Pas besoin.
Parce que
ah non, je te promets, il y a pas besoin. Ils nous ont sorti les deux Beat'em All, ils sont sortis, ceux qui sont sortis il y a quelques années.
Tu veux dire quoi dans... Les Ken's Rage et trucs
ouais,
comme ça.
Ouais, ça ils
ah,
sont
mais là,
sortis.
C'est un cas
et nous,
un peu différent.
On est un territoire, on est un territoire qui ken à fond.
Ah bah ouais. D'ailleurs on a le taux le plus élevé d'enfants par femme.
Non mais on est un territoire d'Europe,
d'Europe ouais.
Eve. Je sais pas si j'aurais posé cette question. Romain, t'as une seconde pour y répondre. Par Squall 93, à quand la traduction française de Yakuza ?
Ah bah ça,
c'est mal barré.
Merci.
Jamais.
C'est mal barré. Je me dis que si on a une chance que ça arrive en français, ça sera pas avant.
Surtout qu'ils trouvent des excuses
ça
bidons.
Ça sera Yakuza 7, je pense, parce que c'est un nouveau. Voilà, ils trouvent beaucoup d'excuses bidons pour ne pas le faire. Et je me dis que Yakuza 7, qui donc introduira un tout nouveau personnage, une nouvelle intrigue, etc. Je pense que ça serait le bon moment de tenter la VF.
Ou alors
ils
te consultent et disent Romain, fais-nous la traduction de chacun des jeux Yakuza qui est sorti jusqu'à aujourd'hui.
Au lieu de faire
et
le malin.
Tu peux y passer 4 ans.
Mais tu t'imagines pas le boulot que c'est. Yakuza 0, c'est eux qui l'ont dit. En termes de contenu, c'est 3 gros JRPG. À lui tout seul.
J'en doute pas une seconde. Donc tu le feras pas finalement, tu vas rester bosser avec nous.
Ouais.
C'est aussi bien.
Et après, peut-être que Okuto ga Gotoku, comme c'est une licence qui est connue hors des sphères yakuzesques, peut-être que ça l'aidera à avoir une trad en français.
Les lecteurs apprécieront
encore quelque chose.
Est-ce que
Thomas va réussir à tenir les 5 minutes là où Romain est à 9 minutes?
Oh, mais si c'est pour reparler d'un jeu moyen, oui.
Penny
ça
Punching
peut se faire.
Princess, alors.
Eh ben, ça tombe bien,
ça, ça va très vite. Ça.
Penny Punching Princess.
C'est sorti sur quoi? C'est quoi?
C'est quoi? Et pourquoi c'est pas bien?
Pourquoi c'est pas. Bah, c'est pas que c'est pas bien, non, c'est, quoi, d'abord c'est que c'est très vite répétitif. C'est un beat'em all avec quelques petits éléments de RPG, puisqu'on prend du niveau, comme dans tout bon RPG qui se respecte. Vous êtes dans des petits donjons, en fait, où vous êtes. Vous arrivez dans des petites arènes où il y a tout un tas de monstres qui vous attaquent, qu'il faut évidemment défaire les uns après les autres. On a tout un tas de types d'attaques au corps à corps, de loin des esquives. Le twist en l'occurrence avec Penny Punching Princess, c'est que vous avez une calculatrice en fait que vous pouvez faire apparaître avec un des boutons de tranche qui vous permet de tout acheter. Les ennemis, les pièges, absolument tout peut être acheté. Donc en fait, quand on combat des
c'est
ennemis...
C'est complètement immoral ce jeu, ah bah tout peut être acheté.
Ça commence par une critique du capitalisme en fait, en disant que voilà, c'est très mal que l'argent dirige le monde, mais que c'est ainsi.
Et donc profitez-en.
Et toi, tu joues à un jeu où on parle de parachute doré comme ça. T'as une princesse qui paye tout.
Oui, déjà c'est une tête couronnée et en plus du coup elle dilapide sa fortune.
Ah ouais, toi, ça t'a pas dérangé
pour retrouver son royaume parce que son royaume lui
il
a été
dit que un jeu moyen, c'est pas pour
dérobé.
Rien.
Et donc la calculette
et pourtant il est en
pixel
art.
Toi, le chantre du marxiste de la rédaction, tu.
Tout à fait.
Alors ça, j'en reviens pas.
Et c'est quoi l'histoire de la calculatrice?
C'est la monnaie qui dirige le monde.
La calculatrice justement. En fait, tu l'as fait apparaître et au moment où elle arrive à l'écran, tu vois qu'il y a un prix au-dessus des pièges, au-dessus des ennemis, et en fait, tu décides ou non de mettre le prix en question pour ou acheter des ennemis que tu vas pouvoir en fait invoquer et balancer comme des attaques, ou des pièges que tu vas pouvoir activer quand bon te semble et qui vont faire énormément de dégâts.
Ça aurait pu être un jeu Wario. Avec un autre skin.
Ah non,
bah
parce que c'est
des pièces partout, tout le temps.
Oui, mais c'est vraiment
une
aventure. Alors, ça se découpe en 8 mondes. Il y a beaucoup. Il y a du contenu. Le problème, c'est que ça devient très vite, très répétitif, peu inspiré. En fait, on est dans un. Enfin, le niveau du level design est assez bas. On se retrouve à arpenter un petit peu les mêmes couloirs, à se retrouver face aux mêmes situations, avec des ennemis qui ont des skins différents. Mais le twist de pouvoir tout acheter ne suffit pas à rendre le jeu suffisamment.
Attrayant,
il n'arrive pas à renouveler en fait, à trouver des bonnes idées. C'est sympa de pouvoir s'accaparer tous les ennemis, mais en fait, au bout d'un moment, on se retrouve juste à enchaîner, à avoir ce côté un peu bête du beat'em all quand il n'est pas inspiré, à recommencer encore et encore. Et comme en plus, il y a une dimension RPG, il y a des fois où il faut prendre des niveaux, donc il faut refaire les mêmes niveaux redondants que tu as déjà fait plusieurs fois.
Pitié pas ça.
Voilà, ouais. Bah, c'était
mis
exactement
combien, du coup
ça. J'ai mis 5 parce que ça c'était une bonne idée sur le papier. Moi, quand j'ai joué la première fois chez Core Media, je me suis dit chouette, ça va être super rigolo. Alors ça l'est. Vous avez un cafard. Non, mais vous avez un cafard avec un nœud papillon qui vous sert de majordome, qui est très bien écrit, qui est vraiment très drôle. Pour le reste, c'est malheureusement très répétitif et c'est assez dommage.
C'est traduit en français?
Pas du tout.
Voilà. Parce que ça j'ai appris avec mes tests répétés de Yakuza que c'est un élément qui est extrêmement important pour le...
Pas du tout, ça n'est pas traduit en français, mais si vous arrivez à lire les chiffres, vous profiterez pas des blagues de Sébastien le cafard avec son nœud papillon, mais vous pouvez à peu près tout acheter et foutre des coups, donc c'est vraiment, vraiment pas un problème de pas parler anglais, mais même si vous parlez anglais, je vous conseille plutôt pas ce jeu qui est tout à fait dispensable.
J'avais pas fait gaffe, en plus Penny Punching Princess, c'est un renvoi au concept du jeu, parce que Penny Punching en anglais c'est une expression qui veut dire que tu
gagnes de l'argent en cognant les gens, quoi.
Bah non, ça oui.
Bah là c'est ce qui se passe.
Oui, c'est littéral, mais quand t'es Penny Punching, c'est que ça veut dire que t'es au sous-près, tu comptes les sous, tu vois.
C'est ce qu'il faut faire parce que tu peux pas tout acheter en fait, donc il faut faire un petit peu attention. Voilà.
Très bien, donc un jeu
prête tes sous.
Très moyen.
C'est sorti sur Vita et sur Switch, donc deux consoles avec un écran tactile.
C'est sorti sur Switch, voilà, vous avez la réponse. Est-ce que Détective Pikachu est sorti sur Switch, mon cher Romain, tu as 5 minutes?
Non, il est sorti que sur 3DS.
Ah, et c'est une bonne occasion de ressortir sur 3DS ou pas?
J'ai fait 3.30.
Hein. Ça dépend quel âge tu as.
Mais...
Ça dépend quel âge tu as.
Parce que c'est vraiment un jeu.
C'est très très simple. Vraiment, vraiment très très simple. Moi, dans ma tête, en y jouant, j'avais cette expression, tu sais, mon premier machin, mon premier jeu d'aventure, bah c'est Détective Pikachu. Et c'est dommage parce que Détective Pikachu, le personnage, est canon.
Le jeu, c'est un jeu d'énigmes, c'est ça?
C'est un jeu d'aventure point and click assez.
Oui, parce que
assez
c'est une approche très bizarre pour Pikachu qui est un Pokémon, rappelons-le. Un Pokémon qui se contente de dire Pika Pika d'habitude.
Avec une voix aiguë en plus.
Et d'envoyer des éclairs.
Exactement. Là, en gros, qui là d'un coup devient un détective avec une grosse voix comme ça.
En gros, je vais rester quand même évasif parce que étant un jeu d'aventure, l'intrigue et le dénouement, tout ça, c'est assez important. Pikachu, le Pikachu détective, donc, c'est le Pokémon de compagnie, l'assistant du père du héros. Mmh. Mais en enquêtant, qui est détective privé, donc le père du héros a disparu il y a plusieurs semaines alors qu'il était en train de mener une enquête. Et donc le gamin finit par débouler dans la ville parce que visiblement le père travaillait loin de chez lui, en fait il habitait pas,
il s'en rend pas compte tout de
suite, il habitait pas avec sa mère et son fils,
et un jour il a besoin d'argent de poche.
Non, mais son père donne pas de nouvelles, donc au bout de plusieurs semaines il déboule et il tombe par hasard sur ce Pikachu. Et le truc bizarre, c'est qu'ils arrivent à se parler parce que tous les personnages humains ne comprennent pas Pikachu. Il y a juste ce gamin là qui le comprend. Pikachu arrive à parler aux autres Pokémon et à Tim, donc le héros. Sinon tous les autres ne font qu'entendre Pika Pika avec une grosse voix. Ils entendent juste Pika.
Donc
Pika Pika,
le héros, c'est lui-même un Pokémon du coup.
Non, mais il a un moyen.
Mais attends, c'est
mystérieux.
Pas des énigmes à la Layton, etc.
Ah non, c'est pas du casse-tête puzzle, c'est du genre, tu parles, tu dois résoudre un truc, tu vas découvrir des indices en trouvant des objets et en parlant aux autres personnes, et progressivement, tu vas combler le truc. Et Pikachu n'est pas du tout un faire-valoir. En fait, c'est en partie à cause de lui que le jeu est très simple. Parce que comme il réfléchit lui-même, régulièrement, il va t'interpeller, il va te dire « Hey, Tim », etc. Il va dire « Hey, est-ce que t'as pensé à ça, ça et ça ?» En fait, il contribue vraiment à l'enquête. C'est vraiment... En fait, t'es presque le héros est presque plus le faire-valoir de Pikachu que l'inverse. Mais le personnage est super sympa. Moi, j'adore ses mimiques, sa façon de parler à un moment. Parce qu'en plus, les autres personnes humaines le perçoivent comme un Pikachu normal. Donc il y a la secrétaire du cabinet détective qui est là, oh, Pikachu t'es trop mignon, elle va le tirer par les oreilles, le choper par les oreilles, lui il va râler, mais il y a que toi qui l'entends râler en fait. Et c'est il est super cool, ça change vraiment du Pikachu.
On découvre une autre facette de Pikachu.
Ça, et on découvre une autre facette de l'univers des Pokémon.
Ouais, donc si t'as 8 ou 12 ans, c'est vachement bien.
Même
si
12 ans, ça commence même à être un peu, à être un peu tard, je pense.
Et donc toi, finalement, t'as pas pris un très grand plaisir à y jouer.
Non, ça a vite été chiant parce que c'est trop simple. Il y a aucune
T'as pas eu à véritablement réfléchir,
non,
en fait.
Non,
tu t'es pas retrouvé coincé à un moment donné par une énigme ou ce genre de truc.
Non, surtout qu'il y a des moments où, par exemple, t'as trouvé plein d'objets dans la map. Et tu dois faire une association de ces objets pour pouvoir résoudre l'énigme et avancer. Le truc, c'est que si tu fais pas la bonne association, t'as Pikachu qui te fait « Non, c'est pas ça. » Et là, tu recommences. Et donc, déjà, c'est pas évident de pas trouver du premier coup. Hein. C'est tellement c'est simple. Volontairement, je me suis trompé. Et pour voir justement si t'avais un game over ou si ça te renvoyait plus loin en arrière, etc. Non, tu peux réessayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne combinaison. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop simple. Mais pour les enfants qui savent lire, parce que le jeu est doublé, mais doublé en anglais, donc c'est anglais sous-titré français. Donc faut savoir quand même lire, sinon c'est compliqué.
Ah, ils l'ont pas doublé en français ?
Non, et c'est super étonnant. Dommage. Ce qui est super dommage.
Mais c'est vachement étonnant même pour un jeu Nintendo.
Oui, mais il a été localisé assez tard, hein, je dis pas de bêtises.
C'est un jeu qui est sorti il y a plus de 2 ans.
Voilà,
hein,
donc il y a peut-être pas eu un budget phénoménal pour le faire arriver chez nous.
Bah alors combien tu l'as mis ?
J'ai mis 7. 7, mais c'est vraiment une note si tu le prends tel qu'il est, c'est-à-dire un jeu pour enfants. Si t'es un hardcore gamer habitué des jeux d'aventure ou des point and click et trucs comme ça,
on note les jeux pour ce qu'ils sont.
Mais le truc, c'est que ça a pas été présenté officiellement comme étant un jeu pour enfants. Tu vois, personne est venu dire c'est un jeu qui s'adresse aux enfants.
Je m'attendais pas à autre chose personnellement.
Bah avec un Pikachu qui parle avec une grosse voix, un truc un peu décalé, tu peux t'attendre à ce qui est.
Ouais, mais ça reste l'univers des Pokémon. Quoi,
surtout que j'ai expliqué la scène en détail à Thomas et c'est qu'un exemple. Il y a une scène où Pikachu détective se retrouve face. Ça m'énerve de spoiler. On va dire face à un autre Pikachu, mais qui n'est pas n'importe quel Pikachu. Et ça, c'est pas dit explicitement. C'est toi, avec ce que Pikachu détective dit, tu vas comprendre qui est ce Pikachu. Et c'est genre une scène qui dure 30-45 secondes.
Le Pikachu la jolie, non ?
Pikachu la jolie, 1-1. Et tu vois, c'est ce genre de scène te fait dire que ça aurait pu être intéressant pour un jeu plus vieux.
Je sais pas, c'est la première fois qu'elle me passe par la tête.
Fait,
hein.
C'est incroible. Moi, je crois que dans mes vieux tests pré-Gameblog, je crois que je l'ai déjà fait.
J'y ai jamais pensé avant,
c'est la première fois que j'entends. Pourtant, elle est évidente.
C'est la première fois que j'y pense.
Non, je pense là, que Trask, à mon avis, Trask l'a inventé il y a une cinquantaine d'années.
Ah oui, ah, oui, pense, oui mais c'est Trask qui a déposé le.
Là, il est devant son ordi en train de regarder, en train de tester. Allez, tout. Mais attends, bande de con,
on passe au meilleur jeu de la semaine alors.
Oui, absolument, le meilleur jeu de la semaine que tu veux nous expliquer en autant de temps qu'il faut pour le finir, j'ai envie de dire. C'est Minute, il faut 60 secondes pour.
Non, il faut 2 heures pour le finir. Ah, j'ai 2 heures devant moi pour vous parler de.
Ah, c'est que 2 heures?
Moi j'ai mis 2 heures pour le terminer, mais tu verras mon cher Julot que c'est pas parce que tu l'as terminé que tu en as
moi,
fini avec le jeu.
C'est pour moi.
Non, parce que justement, Minute c'est un jeu qui a très bien compris que une bonne idée n'a pas besoin d'être étalée pendant des plombes pour vraiment fonctionner.
Bah, regarde Penny Punching Princess.
Ouais, exact. Ouais, non, mais c'est limite trop long en fait. 8 mondes, ouais. ça va un peu trop loin. Là en l'occurrence, c'est un espèce de Zelda-like. Vraiment, ça s'inspire du premier Legend of Zelda, un peu de Link's Awakening. Vous avez un jeu d'aventure, voilà, avec vue du dessus, où vous commencez avec un petit personnage qui sort de chez lui, qui trouve une épée sur la plage.
On dirait un Tamagotchi.
Et à partir de ce moment-là, c'est la cata parce que toutes les minutes, vous allez mourir. Quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toutes les 60 secondes, vous allez mourir. Vous pouvez même mourir avant si vous voulez. Et vous allez revenir au point de départ. Et vous avez donc des petits runs de 60 secondes pour réussir à faire quelque chose. En fait, sachant que les actions que vous allez entreprendre, les quêtes que vous allez mener à bien, ce genre de truc, restent, évidemment. Donc, à chaque fois, vous avez 60 secondes pour effectuer quelque chose, une action. Déjà, trouver ce qu'il faut faire parce que c'est pas toujours évident. Le jeu est très ouvert très rapidement. Donc, il faut être curieux aussi. Il faut avoir envie d'explorer et de se planter. Mais ça marche merveilleusement bien parce que la carte, en fait, est hyper intelligente. Elle est pensée, elle a été dessinée autour de ce concept.
Mais du coup, excuse-moi, mais alors ça veut dire que au moment où tu le finis en 60 secondes?
Mais non.
À la fin.
Non, mais
t'auras mis 2 heures pour le finir en 60 secondes, mais à la fin.
Non, parce que t'auras fait plein de runs de 60 secondes pour activer ça. Tout un tas de trucs en fait.
Ah, d'accord, il y a des espèces de checkpoints alors.
Absolument. Bah, il y a les autres baraques où tu vas pouvoir respawner.
Ah, oui, et la moindre quête que tu mènes à bien, un type qui va te dire ah oui, il manque tel objet, j'aimerais bien que quelqu'un me le ramène. Si à un moment donné tu le récupères, que tu retournes voir le gars, il est content et il sera toujours content parce que tu lui auras éternellement ramené son objet en fait.
Ah oui, donc tes dernières 60 secondes ne commencent pas du point de départ du jeu.
Tu respawns dans une maison, en fait, qui est d'abord la tienne et qui va évoluer, en fait, au fur et à mesure, puisque c'est ça aussi qui est intelligent.
C'est quand même une séquence de 60 secondes qui termine le jeu à la fin.
Oui, bien sûr.
Ouais, du coup.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, tu ne fais que jouer des séquences de 60 secondes. C'est la seule manière de jouer à Minute. Et ce que je disais, c'est que la carte est vachement bien foutue, en fait, puisque au fur et à mesure que tu récupères des objets, tu débloques aussi des capacités, tu vas pouvoir nager, tu vas pouvoir courir à un moment donné, ce qui fait que tu trouves des raccourcis qui font que des fois tu vas skipper plusieurs écrans et dire ah ouais, ah si je traverse le fleuve je me retrouve à cet endroit là mais
comme
c'est
chez
génial.
Ikea dans les
Ikea, je connais ça que comme moi, je connais que des raccourcis chez Ikea, je sais jamais le magasin en entier.
Ah, t'as des warp zones chez Ikea.
Ouais, c'est vrai.
Ah, tu peux finir le magasin, tu peux le speedrunner.
Moi j'ai speedrunné Ikea, laisse tomber, une fois j'ai acheté une bougie et j'ai pris tous les raccourcis.
Ouais,
ça va très
direct
très vite
à la fin,
ça va très très vite.
Ikea The Game.
Ouais, ben non, mais là c'est pas Ikea The Game, mais
on tient un concept. Là,
mais ça marche vraiment, vraiment très bien. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'essayer quelque chose d'un petit peu original, Minute, vraiment pour moi c'est la très très bonne surprise de ce mois d'avril.
On n'a pas du tout parlé de la réalisation. Il y a des gens qui ne voient pas les images. C'est un jeu Game Boy en gros.
C'est un jeu noir et blanc. Ouais. Vraiment.
Game Boy Pocket.
C'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas d'autres teintes. Donc évidemment c'est du graphisme assez rétro. C'est assez épuré en fait, ce qui sert un petit peu finalement le jeu parce que on a vraiment besoin de savoir ce qu'on va faire, il faut que les interactions soient très claires parce que tout n'est pas forcément expliqué et en fait le jeu joue beaucoup sur voilà, qu'est-ce que tu peux faire en 60 secondes et ça t'amène mine de rien à réaliser au bout d'un moment que en l'espace d'une minute tu peux faire énormément de trucs parce que tu prends l'habitude d'aller droit au but en fait dans Minute. À un moment donné tu vas repérer ton objectif, tu vas comprendre quelque chose, tu vas l'essayer, tu vas réussir et tu vas partir faire autre chose.
Et ça fonctionne,
ça te tient en haleine du début à la fin. Moi voilà, j'ai mis 2 heures pile poil pour le terminer, sachant que il y a plein d'objets secondaires voilà, on est passé devant le cimetière, l'os je ne sais toujours pas à quoi il sert. Il y a des cœurs à récupérer pour augmenter ta barre de vie, il y a plein de défis en plus, il y a un temple caché.
Tu veux dire qu'on peut le finir mieux que toi parce que t'es passé à côté de...
Ah non, mais j'ai continué ma partie après.
Ah oui.
Parce que tu bats le boss, tu respawns à un moment donné et tu peux continuer à explorer le monde. Et c'est pas fini, puisque une fois que tu termines quand même l'aventure, vu qu'il s'inspire de The Legend of Zelda, il y a une espèce de master quest en fait, où tu recommences le jeu avec ton épée qui est cassée, donc qui a beaucoup moins de portée, avec un seul cœur, et c'est le seul que tu garderas en fait tout au long de l'aventure, parce que même les cœurs que tu récupéreras vont se casser directement, et 40 secondes de run.
Très bien. T'as mis 0 secondes.
Voilà.
Bravo Thomas.
Donc vraiment, si vous êtes curieux, allez-y. En plus, ça coûte 10 euros. Vraiment, c'est.
Il joue sur PS4, Switch, c'est ça ?
Non, sur PS4 et PC.
PS4, PC.
Très bien. Mais voilà, c'est un jeu qui.
Est-ce que ça sort sur Switch alors ?
Je ne sais pas. Ça n'est absolument pas prévu.
Ah mince. C'est un jeu PS4. C'est bizarre qu'il l'ait pas mis sur Vita aussi.
Oh, tu sais, malheureusement, la Vita décède de sa belle mort.
T'as pas entendu les rumeurs ? Apparemment, ils s'en occupent plus trop de la PS Vita.
Ouais, ah bon ?
Oui, je crois que.
Personne n'est au courant ici.
Ne le dites à personne.
Non, mais regarde, faut pas les
ruiner ça.
Penny Punching Princess totalement maintenant.
Oui, mais il est sorti il y a plus longtemps sur Vita en fait. Ah, il a été.
Non, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un petit jeu indé. Et les jeux indés adoraient sortir sur Vita et PC ou Vita, PS4, PC. Mais maintenant, ils ont.
Pour l'instant, ils sortent sur PS4. Mais véritablement, si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez 10 euros à claquer, c'est une très bonne surprise et c'est un concentré en fait de très bonnes idées qui ne s'épuisent jamais. Donc foncez.
Voilà. Bravo Minute, c'est un jeu Devolver, hein, c'est ça ?
C'est édité c'est évidemment par Devolver qui a souvent du nez pour pas dire toujours.
Toi, tu vas t'amuser à l'E3 quand tu vas découvrir leur truc.
Ah ouais, bah tu vas passer une demi journée là-bas.
Tu vas, tu vas kiffer. Comme
des cœurs, j'ai des hot dogs. Des cœurs dans les yeux.
Ah, exactement.
Mais où est Thomas ? Putain, Morgan, on sait pas où est Thomas. Il est chez Devolver encore. Mais putain, il a 25 rendez-vous.
Un speedrun. Et bon, on va speedrunner
les restes de l'actu, absolument. Dans les restes de l'actu, on a Spyro.
Tout à fait.
Spyro est de retour.
Ouais, alors je sais pas, il y a pas mal de gens qui pensaient que ça allait faire autant de bruit que Crash Bandicoot.
Il y a eu une hola à la rédac.
On en est très loin quand même, hein, parce que bon, bah, Spyro c'était un super jeu d'Insomniac. Hein,
ouais,
après, il a moins marqué les esprits que Crash Bandicoot, donc il y a moins eu de hola dans le stade.
Non, mais parce que les gens n'étaient pas là, c'était les grèves, c'est pour ça.
Bon, cela dit, il a donc été annoncé pour le 21 septembre 2018 sur PS4 PC. Alors, il pourrait y avoir une version Switch parce qu'il y a une espèce de petite fuite chez un revendeur qu'il avait listé, etc. Bon. On les voit pas ne pas le faire sur Switch.
Ça a l'air joli quand même. Hein.
Mais tu vois,
ça prendront trois jeux. Alors d'abord, ça s'appelle Spyro Reignited Trilogy.
Reignited.
Ça veut dire réuni.
Non, ça veut dire ravivé, tu sais, pour un feu.
Reignited, ouais. Mm-hmm. C'est très dur à prononcer pour moi, en tout cas. C'est développé par Toys for Bob. C'est ceux qui ont fait les premiers
Skylanders.
Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de Skylanders cette année.
Tu rigoles ou quoi ? Il y a trois studios qui bossent sur les Skylanders.
C'est
et
vrai
de toute façon, Skylanders, au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est en pause.
Oui, c'est en pause.
Ils ont trop sorti, ils ont trop tiré sur la corde.
Ah bon ?
Un peu à la manière d'Assassin's Creed à un moment.
Je savais pas.
Et donc là, ça s'est calmé et donc ils se calment.
Bientôt Skylanders Origins.
Mais c'est quand même donc développé par Toys for Bob. C'est sous Unreal Engine 4. Donc les trois jeux ont été refaits. Graphiquement reconstruit comme ils disent, avec les musiques qui ont été réimaginées. Et d'ailleurs, petit trivia, le doubleur du premier Spyro est différent des deux autres. Ils ont pris un autre doubleur et du coup là, comme ils ont réenregistré les voix, eh bien ils ont pris le deuxième doubleur, celui qui a fait le 2 et le 3, et ils l'ont fait redoubler les dialogues.
Un tout incroyable.
Petite trivia, voilà. Vous avez vu le trailer, ça sort donc le 21 septembre. Si vous êtes chaud comme Camille chez nous, Camille est dingue de Spyro.
Mais c'est normal, c'est un de ses premiers jeux.
Mais c'est normal.
Mais il y en a plein des gens dingues de Spyro.
Mais si je fais ça, c'est pareil. Mais il jouait Spyro quand.
Mais tu peux pas être nostalgique de tout.
Et à voir ce qu'on a vu dans le trailer, c'est quand même un joli remaster.
Ça a l'air cool. Voilà.
Bon, je sais pas.
Un joli remake.
Ah bah tu vas le tester alors, si ça a l'air cool. Hein.
Non, mais c'est pas
ça. Tu feras moins le mal.
Non, mais c'est pas mon style. Voilà pour Spyro.
Donc Xbox One, PS4.
Le deuxième reste de l'actu, c'est Final Fantasy XV. On n'en a pas fini avec Final Fantasy XV. Vous le savez, depuis la PAX, les équipes de Final Fantasy XV nous ont annoncé ce que Hajime Tabata nous avait teasé il y a quelques temps.
Nous avait promis,
savoir,
carrément. Hein,
il a promis que jusqu'en 2022,
vous allez prendre perpète,
le contenu en particulier qui a été annoncé, il nous l'avait teasé, à savoir... Il avait demandé à un public de fans il y a quelques semaines, ça vous plairait d'avoir une fin différente, encore mieux, ou alors un peu plus triste, machin. Et ben là, c'est l'occasion. En 2019, donc il y aura 4 nouveaux épisodes téléchargeables de Final Fantasy XV, comprenez des DLC. Donc en hiver 2019, donc début 2019, il y aura un épisode centré sur Ardyn, sur les origines de sa brouille avec la famille de Noctis. Un autre arrivera plus tard, en printemps 2019. Centré lui sur Aranea, ce personnage secondaire de la quête principale, pour laquelle on reviendra sur son dernier jour, sur le dernier jour de l'Empire.
Et du reste de sa vie, non ?
Voilà, donc ça va être un peu bizarre. Il y aura ensuite, toujours au printemps, Lunafreya qui aura son propre épisode et Noctis qui aura aussi son épisode.
Ça peut être
pour
cool. Lunafreya, par contre.
Diriger tout ça vers une fin alternative qui
ça,
pourrait
par contre,
bien
c'est
être
pas cool du tout.
Une fin super sympa où tout le monde est vivant, tout le monde boit de la bière et tout, oui.
quand vous allez faire lequel de vous deux va tester ça.
Alors écoute,
je propose que vous en fassiez un chacun.
Pour
répartir.
Je pense qu'il y a un moment.
La charge.
Il est temps que toi aussi. Tu te mets à Final Fantasy 15.
Mais donc, non.
Ah si, faut que tu comprennes.
Non, mais je vais te dire pourquoi.
Vieux, t'as joué à Final Fantasy 11.
Non, le truc, c'est que je
t'ai adoré Final Fantasy 11. Tu adores Final Fantasy 8.
Mais tu vas voir, j'ai un très bon argument.
Non, mais tu as joué à Final Fantasy 8. Tu l'adores. Tu l'aimes. T'as aimé le 9 aussi.
J'ai un très bon argument pour t'expliquer ça.
Ouais.
C'est moi qui commande.
J'étais sûr que ce serait ça.
Oh la vache. Ok, ça marche.
Ok,
mais ça sera pas moi quand même. Très bien.
Bah, c'est lui qui a testé la version PC, donc il faut peut-être le laisser respirer un petit peu aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et par contre, j'ai tellement pas envie de faire l'épisode Ardyn.
Bah, tu le feras.
Ce personnage est tellement pas intéressant.
Tu lui laisses Allez, ça sympa.
Je vais faire Luna Freya.
Ok, bah tu feras tout. Ça sera bien.
Ok.
On va faire un petit point Battle Royale pour terminer.
Ah, voilà.
Elle a une réaction. L'électrocardiogramme a bougé.
Est-ce que c'est parce que vous parlez de Battle Royale ou c'est parce que c'est le dernier sujet du podcast? Vous savez pas ça.
Ah. Mais j'ai remarqué que t'étais pas avec nous. Hein. T'as pas beaucoup entendu aujourd'hui. T'as pas relayé les propos de Kiflam.
Bah, elle mangeait ses cheveux tout à l'heure.
Putain, Kiflam est pas là. Et c'est pour ça que t'es triste alors.
Oui, c'est pour ça que je suis triste.
D'accord.
Non, la tristesse, c'est parce qu'elle était sur Deliveroo. Elle essayait de commander des sushis à
25 euros. Mais c'est pas assez cher.
Et le truc, c'est qu'il y en avait plus.
Votre panier n'atteint pas 100 euros. Ah, mais c'est dommage.
Alors le petit point Battle Royale de la semaine, très intéressant, il y a Ubisoft, Thomas, Ubisoft.
Oui,
Ubisoft.
Alors c'est une rumeur.
Voilà.
Hein. Non mais voilà, mais
qui bosserait
avec des
sur un Battle Royale.
Mais tenez-vous bien, accrochez-vous à vos sièges, tout ce que vous voulez. L'équipe derrière The Division travaillerait peut-être.
Donc c'est Massive.
Massive, exactement, sur un Battle Royale.
Ils travaillent déjà sur le 2. Ah,
ouais. Ils travaillent déjà sur The Division 2 et un jeu Avatar à venir, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Et donc, il se murmure par l'intermédiaire de Game Reactor que voilà, ces messieurs travailleraient sur un Battle Royale, un genre...
Dans l'univers d'Avatar, comme ça c'est
un
jeu, il y a les deux projets.
Tout nouveau qui vient d'arriver et voilà, sur lequel personne ne s'est penché pour l'instant. Donc Ubisoft pourrait, aux surprises, lui aussi, avoir son Battle Royale.
Alors, tu voudrais dire que comme ça, d'autres gens pourraient s'intéresser au Battle Royale.
Eh ben écoute, peut-être. Ben, il faut voir comment ça va être fait, dans quel univers.
Oui, il y a d'autres gens qui s'intéressent au Battle Royale, mon cher Gélo, puisque
vous
c'est
allez en bouffer des Battle Royale.
Bosky, donc Bosky Productions, le studio de Cliff Bleszinski, vous savez, le papa de Gears of War notamment, qui a annoncé
le papa surtout de
il s'est planté sur son dernier jeu, comment
ça s'appelle, Lawbreakers.
Ben voilà, alors en fait,
il s'est planté sur Lawbreakers.
J'avais déjà oublié celui-là.
Lawbreakers a
bah,
été
aussi,
un four absolument
intersidéral, on peut le dire.
Catastrophique. Ils se sont même excusés il y a quelques jours chez Bosky de devoir abandonner le jeu parce que bah voilà,
personne les mecs.
Voilà, donc forcément, mais pour les 4
ils sont excusés auprès de qui du coup, c'est ça que...
Des 4 fans qui ah, jouaient quatre, peut-être. Ouais, ils étaient sûrement 4.
Ce qui est marrant, c'est que Lawbreakers à la base ça devait être un free to play.
Ouais.
Au bout d'un moment, ils ont dit non, on va faire un vrai jeu normal.
Payant.
Tu payes ton jeu et voilà. Et bah, ça n'a pas marché. Et là, donc ils se lancent dans le free to play Battle Royale.
Exactement, voilà, tu me coupes l'herbe sous le pied un petit peu. Puisqu'ils ont annoncé disponible en accès anticipé à partir du 10 avril. Donc demain on enregistre, eh bien un jeu qui s'appelle Radical Heights, un battle royale free to play qui va prendre racine dans une ambiance années 80
très
spéciale avec des néons partout,
pour toi,
des meulettes,
c'est ton battle
des
royale,
mecs avec des,
là, mais y a pas les licences,
des fringues dégueu, enfin pour l'instant on peut pas trop juger. De ce qu'on a vu en tout cas en vidéo, ça a pas l'air absolument fameux. C'est un peu dommage de se lancer comme ça vers le Battle Royale aussi de la part de...
Ça fait
vite fait quoi.
Ça fait genre on veut s'engouffrer dans la brèche. Ouais. En plus on a vu que les années 80 ça marchait bien. On a vu que le côté coloré,
exactement,
de Fortnite ça avait bien pris. Et ben on va faire ça. Genre y a pas de, tu sens pas d'inspiration vraiment et de vraie envie de faire ça.
Attendez, mais les gars, on peut faire une prévision à la Nostradamus. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec World of Warcraft. Tout le monde a voulu faire des MMO. Et le maître est resté
aussi.
Le maître.
C'est incroyable ce que tu nous racontes.
Ça s'applique avec tout. Quand les services de renseignement, genre le 12, ça s'est privatisé en France, bah, t'as eu 118-712, 118-218.
Ça s'appelle l'ouverture à la concurrence.
Voilà, du coup, on a eu plein d'un seul coup, et il n'y en a que quelques-uns contenus, et bah là, ça va faire pareil.
Sans compter tous les clones de PUBG et de Fortnite qui sont sortis et contre lesquels il y a
des croisés. Du coup, pour se rendre compte à quel point ça va être compliqué pour tous ces gens qui vont se lancer dans le Battle Royale, quand même, petit point Fortnite.
Ah, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé.
Parce que mine de rien, il se passe des trucs toutes les semaines. Donc la semaine dernière, en l'occurrence, il est sorti sur iOS. En attendant la version Android, la version iOS est sortie. C'est un énorme succès.
Ah bon.
Dès le départ.
Surprenant.
Un des meilleurs lancements de tous les temps hein, sur l'App Store.
Comme ça, c'est réglé.
Voilà. Alors, pour, je vous balance des chiffres pêle-mêle. Hein. Il y a eu des analyses intéressantes qui ont expliqué. Alors, on va voir à l'image tout de suite. Alors, c'est une analyse qui nous vient de Matchmade et qui explique à quel point le jeu Fortnite est en train de dépasser tout le monde. Alors vous voyez qu'il croise les courbes avec un certain Minecraft, véritable phénomène dans les jeux les plus streamés hein, avec,
sur YouTube notamment
sur YouTube, sur Twitch, etc. Et on voit la petite courbe bleu ciel hein, à partir d'octobre novembre 2017 partir en mode roquette et croiser les effluves avec la courbe verte de Minecraft aux alentours du mois de février.
Ça s'essouffle vachement voilà. Minecraft. Bon, d'un côté, c'est beaucoup plus vieux aussi.
Sorti, hein, mais, non, mais il y a un effet de vase communicant, je pense aussi, au bout d'un moment. C'est, voilà, les gens, même ceux qui jouent à Minecraft, se mettent à jouer à autre chose aussi. À un moment donné, quand il y a un phénomène qui en chasse un autre, c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quand même le phénomène PlayerUnknown's Battlegrounds ou Clash Royale, qui sont les deux autres courbes, diminuer légèrement avec l'augmentation nette de Fortnite, mais voilà, qui s'écroule un peu moins, qui reste important. Mais ce qui est drôle, c'est de voir en millions comme ça que Fortnite, où en est Fortnite aujourd'hui et où en était PUBG au plus haut de sa forme, c'est-à-dire à la fin de l'année, au moment où on pensait que c'était ça le phénomène. Et il s'est fait complètement mais distancé, mais c'est un truc de fou quoi. Donc Fortnite,
là, on parle de viewership YouTube, hein, pas forcément de gens qui y jouent. Donc
ouais, c'est, oui, mais ça te dit quelque chose quand même sur le succès
clairement.
Du jeu.
Ça montre l'intérêt clairement. Que portent les
spectateurs
YouTube. Oui,
c'est uniquement YouTube, mais on sait très bien que c'est la même sur Twitch et sur toutes les plateformes.
Mais c'est plus parlant sur YouTube parce que t'as plus de viewers d'une manière générale que sur Twitch.
Tout à fait. Et donc, bah, bref, voilà, impressionnant phénomène Fortnite. Et comme je vous disais, je vous balance des chiffres pêle-mêle.
Tu nous rappelleras un peu là.
Ah, il y a des chiffres, voilà.
C'est vrai, des chiffres,
on s'en branle. On s'en branle.
Il y a eu un pic le 4 février dernier. 3,4 millions de joueurs simultanés, voilà, pour vous rendre compte. 40 millions de downloads du jeu. On sait que c'est un jeu gratuit, hein, évidemment. En janvier dernier. Hein, 40 millions quand même, c'est pas rien. Et aussi une étude Super Data qui disait qu'il était passé devant GTA Online dans le jeu qui regroupait le plus de joueurs. Voilà.
Nombre d'utilisateurs mensuels.
Donc GTA Online s'est fait doubler. Et bon, alors faut relever quand même la performance de GTA Online qui est sortie il y a quand même un bail.
Surtout qu'il s'est fait doubler, mais il conserve quand même malgré tout un nombre de joueurs conséquent. C'est juste
et
là.
A priori, parce qu'il y a quand même des paiements, c'est gratuit, mais il y a des paiements possibles in-app, comme on dit. Il ferait 1,8 million d'euros par jour dans les plus beaux jours. Fortnite.
Et
je pense que Traz a beaucoup participé.
Mais tu regardes le nombre de.
Il a sa part.
Je pense que.
Bon, bref, c'est un putain de phénomène. La question qu'on se posait la dernière fois, c'est est-ce que ça va durer ou est-ce qu'il sera remplacé par un autre phénomène ?
Eh ben, ce sera peut-être.
C'est peut-être ça la différence.
Radical Heights.
Non, mais c'est peut-être ça la différence avec World of Warcraft, parce que le comparo est un peu simple, parce que c'est quand même un vieux phénomène.
Dont la prochaine extension va arriver.
L'industrie n'était pas du tout pareille. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus est-ce que ce phénomène sera remplacé par un autre ou est-ce que vraiment ça va être un phénomène persistant sur les années qui viennent
Je pense que la différence qu'il faut garder vraiment à l'esprit, c'est que World of Warcraft, pour y jouer, il fallait payer un abonnement mensuel.
Oui, mais je te dis,
Fortnite,
c'est une autre époque aussi.
On peut toujours,
oui,
hein.
C'est une autre.
Son extension
c'est pas là où je voulais en venir, c'est que Fortnite, tu le vois dans les commentaires qu'on a.
Tous les jeux étaient payants.
Oui, mais c'est surtout l'âge des joueurs. Fortnite, c'est un jeu qui est utilisé en grande partie parce qu'il est gratuit et donc comme c'est gratuit, ce sont beaucoup de joueurs jeunes qui y jouent. Et on sait que la fidélité d'un joueur jeune, elle est très limitée. C'est des effets de mode. C'est comme à une époque, quand moi j'étais à l'école, bah, tout le monde jouait au POG. Ensuite, tout le monde a joué aux cartes machin. Et ça passe. Donc là, Fortnite, comme c'est gratuit, c'est le jeu du moment chez les jeunes. Et au bout d'un moment, bah, ils vont se lasser et ils vont passer à autre chose. Donc là, moi, je pense qu'Epic fait son oseille tant qu'il le peut avec les DLC, etc.
Et tu penses à un essoufflement rapide
Ouais, je pense pas. Alors après, je peux me tromper, hein, évidemment.
Ça dépend de leur capacité aussi à renouveler justement les
modes. En ajoutant des modes
de
jeu,
parce que ça a été décisif pour eux justement avec le mode Battle Royale.
Mais je pense un peu comme toi.
Ça va aider.
On a du mal à le croire comme ça quand on est au pic d'un phénomène. Mais c'est toujours plus facile a posteriori. Mais là, se positionner et se dire que ça va pas durer si longtemps que ça, voilà. Ça peut couiller. Et moi, je suis comme toi, je pense que il sera chassé par un autre phénomène.
Oui, parce qu'en
mais dans combien de temps ?
Non, mais en plus, il faut pas se dire que
dans un an,
comme
deux.
C'est plus la mode, ça disparaît automatiquement. On regarde Pokémon Go, les gens ricanaient après disant oh, oui, Pokémon Go, bah ça y est, c'est fini. Oui, la mode. De ouf, elle est finie.
Mais par contre, il y a énormément de joueurs.
Il y a encore beaucoup d'utilisateurs et des gens qui font des achats in-app, etc. Donc, c'est pas parce que la mode Fortnite va s'arrêter que le jeu va mourir automatiquement. C'est juste que quand t'atteins des pics comme ça, bah, ces pics-là ne durent jamais éternellement. Sauf si t'es GTA V, qui lui est un cas particulier.
Très, très à part.
Mais donc, dire que Fortnite ça va s'essouffler, ça veut pas dire que Fortnite va disparaître. Ce sont deux choses différentes.
Très bien, moi je crois qu'on a fait le tour des restes de l'actu comme on le souhaitait et qu'on va pouvoir passer le micro à Eve qui va finir.
Qui va poser un freestyle.
Qui va se réveiller déjà.
Avec une salve de questions, on imagine.
C'est la communauté.
Écoute ça. Ok.
Vas-y, continue.
Désolé, j'ai pas l'inspiration là.
Le freestyle qui tue les freestyles de tous les temps.
À la Eminem. Ouais, alors sur le forum, bon, c'était pas foufou aujourd'hui.
Vas-y, frère.
Vous étiez pas dans les bacs.
Hop.
Vous n'étiez pas dans les bacs. J'essaie de donner un
accès. LSTV, soyez sympa, la prenez pas pour aujourd'hui. Ouais. Hein. Vraiment, soyez
heureusement,
sympa.
Heureusement, ma LSTV n'a pas un compte premium, hein, à ma connaissance.
Il y avait une question de Sadar, du coup, là, on parle du forum de Gameblog. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Hello Gameblog, petite question. Pokémon, pensez-vous que l'on va avoir rapidement un Nintendo Direct pour avoir des news de l'avancée du Pokémon Switch ?
Je pense pas que ce soit une priorité pour eux.
Bah rapidement, je sais pas.
Alors, enfin, oui,
je pense qu'il y aura pas grand chose
à priorité.
Alors, non, de communiquer dessus, de communiquer, d'annoncer, de montrer des visuels, etc.
Non, c'est pour le 3 ça.
Si à un moment, oui, ce sera le 3.
Je pense dirais le 3.
Il y a des gens qui sont persuadés qu'il va sortir cette année. Moi, je sais pas, j'ai toujours des doutes là-dessus.
J'y crois pas trop non plus.
Le Pokémon arrive plutôt pour redynamiser un truc.
Moi, je suis vraiment
ils ont quand même annoncé Smash Bros pour 2018.
Il y a un Metroid Prime 4 dont on connaît qu'un logo, il y a plein de choses.
Smash Bros, oui, mais Smash Bros, enfin, quand t'as une première année Mario Zelda, Mario Kart Zelda, l'année d'après, tu peux pas te contenter de Smash Bros.
Ça va occuper pas mal les gens.
Smash Bros, c'est populaire, mais c'est pas surpopulaire. C'est pas une licence qui joue dans la même stratégie.
Et t'as oublié Splatoon 2 hein, dans la première année, il y avait Splatoon 2 aussi. C'est pas la même taille de licence, mais
Splatoon 2, 4 rangs en dessous.
Non, pas 4.
Mais ça va un peu dans ton sens aussi. Donc, c'est pour dire qu'il y a une première année, effectivement, qui était assez conséquente.
Non, mais ce que je veux dire, Smash Bros, c'est très bien, c'est très populaire, mais c'est pas Pokémon. Il leur faut au moins une licence massive comme ça sur l'année, et cette année ça pourrait être Pokémon. Moi je pense qu'il y a 50-50% de chances que ça sorte cette année.
Ok.
Sinon, il y avait Nathan Gouzien qui demandait comment ça va.
Bah écoute, ça va.
Ça va.
Bah, à part Eve qui est un peu fatiguée.
Ouais, pardon.
Tout le monde va bien.
Ah, c'est lundi pour elle aussi.
C'est fini, Eve ?
Oui, c'est fini.
C'est fini, maître.
Ah, effectivement, c'était pas foufou ce soir.
Oui, c'était pas foufou.
Oh putain !
Oh là là !
Toutes les semaines ne sont pas le courrier des lecteurs.
On va refaire un courrier des lecteurs dans pas longtemps si ça continue. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va en rester sur ça. Pour ce podcast plutôt branché actualité cette semaine, la semaine prochaine, ça devrait être un peu plus barbu. Un peu plus
bourrin,
costaud, un peu plus bourrin sensible,
fragile.
Bourrin fragile.
Oui, c'est un nouveau type de bourrinage qu'on connaissait pas.
Ça va être un peu plus bourrin fragile.
C'est tu casses la gueule de quelqu'un mais avec une larme.
Ouais, une larme
exactement.
Au coin de
l'œil. T'es triste de le faire, tu vois.
Donc la semaine prochaine, vous l'avez compris, on devrait parler un peu plus de God of War et pas forcément que de God of War qui va sortir sur PS4. Je dis qui vient de sortir. Alors forcément, quand on a fini le jeu, on se dit oh bon, il vient de sortir, c'est bon.
On aura un invité spécial pour en parler.
Et on aura absolument un invité très spécial.
Kratos.
Mais tout ça dépend des grèves comme d'habitude, parce que là on est en pleine période de grève, de manif, de je sais pas quoi.
On trouvera bien un jour.
On trouvera évidemment le moment pour l'enregistrer. Si on ne peut pas le faire le lundi exactement à 18h30.
C'est quand même marrant le personnage. C'est quand même le marrant le personnage que Thomas se donne là, parce qu'il parle de grève, il fait ça, alors qu'il passe son temps à gueuler sur les grévistes.
C'est pour gueuler, c'est pour dire ah mais bien sûr, ah mais je l'assume complètement. Je dis pas le contraire. Je fais ça pour tout et n'importe quoi. Donc
là ouais vas-y allez-y les gars. Alors vous voyez pas en caméra.
Pas du tout. Ah non non j'ai jamais dit allez-y les gars jamais.
Si je fais comme ça c'est Crocodile Dundee.
Ah non je le fais toujours les doigts en l'air. J'ai fait trop de concerts de punk rock dans ma vie.
Merci Romain, merci Thomas, merci Julo,
merci Pumo,
je vous ai dit qu'il fallait jouer à Minute.
Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine donc pour un podcast consacré à God of War, j'en dis pas plus. D'ici là, évidemment, comme à chaque fois, portez-vous bien et jouez bien.
Et l'important du fun, c'est quoi ?
Ciao. Ah oui, c'est mon exigence.
Son exigence, c'est le fun.
Ciao, ciao.